du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le 48e épisode de la saison 6 de Vue du banc, le dernier consacré au quart de finale de la Ligue des Champions, puisque ça y est, notre marathon quart de finale de Coupe d'Europe est terminé. Et dans cette optique, pour débriefer la victoire 3-1 de l'Olympique Lyonnais contre le Manchester City de Pep Guardiola, je suis accompagné des deux toliers habituels, Norbert et Daguette. Salut d'abord Florent.
Salut Raphaël.
Florent Tonucci de Chronique Tactique, je vous représente de temps en temps, même si maintenant les gens qui nous écoutent sont généralement des fidèles, surtout quand ils arrivent maintenant le 16 août sur ce podcast. Et puis Christophe Kuchli, alias Daguette. Salut Christophe.
Salut mon cher Raphaël.
Soirée assez folle, messieurs. On ne pensait pas qu'on vivrait peut-être une soirée plus folle que celle entre le Barça et le Bayern. Le 3-1 victoire de l'OL est peut-être encore plus surprenant que le 8-2 du Bayern contre le Barça. Comment aborder ce match, Florent, si ce n'est peut-être par les choix de Guardiola? Et pour ça, je vais vous donner les compositions. Du côté de City, Ederson dans les buts. Côté gauche, Cancelo, une défense à 3 avec Laporte, Eric Garcia, Fernandinho, couloir droit. Kyle Walker, un milieu à deux, Rodri, Gundogan, Sterling et De Bruyne un peu plus haut, et Gabriel Jesus encore plus haut. Du côté de Lyon, dans les buts, Anthony Lopez à gauche, c'était Maxwell Cornet, évidemment, Marçal central gauche, Marcelo dans l'axe, Denayer dans l'axe, pardon, Marcelo central droit, ou j'inverse les deux, vous me confirmerez ou pas, je ne sais plus, je suis perdu dans cette soirée.
Marcelo dans l'axe et Denayer à droite,
ah,
et,
merci.
Du bois latéral.
Ah oui, d'où le fait que Denayer se retrouve 2-3 fois sur le cul face au dribble de Sterling quand il a fallu défendre un peu plus loin de l'axe. Côté droit du bois, donc tu l'as dit, un milieu à 3, Guimaraes, Kakré, Aouar, et puis un duo, Depay, Toko et Kambi, avec un Dembélé qui démarrait le match sur le banc. Et puis Christophe, on va commencer par parler des choix de City, parce que c'était ça le plus surprenant des deux côtés. Lyon n'a pas changé véritablement depuis quelques semaines, même depuis quelques mois sur le système. En revanche, du côté de Guardiola, il a abandonné son système habituel, il est passé à une défense à 3. On a pas vu de Mahrez, pas vu de Bernardo Silva sur le terrain. C'était vraiment un Guardiola très très conservateur.
Ouais, très conservateur. Alors à la fois dans le système, et là j'avoue que c'est presque plus étonnant pour moi que le choix des joueurs. Le fait de passer à 3, en fait, j'ai du mal à voir. Quel est l'objectif derrière ça? Alors lui évoque le fait en gros de contrer les forces de l'OL, sachant que la force principale de l'OL pour te mettre en danger, c'est les longs ballons pour partir dans le dos de la défense adverse. Parce que t'as aussi Aouar, mais Aouar c'est plus en deux temps, c'est-à-dire qu'il va sortir de la pression, etc. Il va pouvoir construire quelque chose après, mais limite ça reviendra au même, dans le sens où la passe d'avoir a de bonnes chances d'être en profondeur pour quelqu'un qui va encore prendre ta défense de vitesse. Donc on en revient au déficit de vitesse, et j'avoue que mettre à 2 ou à 3, finalement, je sais pas si ça change grand chose, à partir du moment où tu n'inclus pas quelqu'un d'extrêmement rapide dans ta ligne de 3. Donc bon, tu rajoutes une couverture supplémentaire, mais ça change pas grand chose. Mais c'est vrai qu'au-delà du système, finalement, quand tu regardes les joueurs, il y a une vraie question à se poser, savoir si Kakré, Guimaraes, Aouar, on n'est pas sur 3 meilleurs joueurs de foot. Vraiment, si tu fais la moyenne des trois, hein, pas tous séparément, que Rodri, Gundogan, De Bruyne, sur la capacité à faire beaucoup de choses avec le ballon. C'est-à-dire que De Bruyne, qui fait pas un match incroyable sur cette soirée, hein, faut quand même être honnête par rapport à ce qu'il avait fait face au Real, De Bruyne est au-dessus de tous les autres, mais finalement, Aouar, il est pas au même niveau, mais il y a pas non plus un écart si énorme que ça. Mais Gundogan face à Kakré, Guimaraes face à Rodri, dans l'absolu, je me demande si les Lyonnais ont pas une meilleure palette que les deux joueurs d'en face. Et finalement, Guardiola, qui avait pris l'habitude depuis pas mal d'années de replacer des joueurs, des anciens ailiers, des anciens milieux offensifs, etc., dans des postes assez bas, des postes de numéro 8 qui étaient plus habituellement plus occupés par des joueurs qui ont un gros volume de course, etc., qui sont plus box-to-box, là c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que Gundogan, qu'il avait souvent utilisé en 6 l'an dernier, il le met dans le demi-espace en lui confiant des responsabilités de créativité, des responsabilités offensives qui sont pas nécessairement quelque chose que Gundogan est capable de faire depuis quelques années. Donc c'est à la fois conservateur, mais en plus un conservatisme qui, là, sur le papier, alors c'est toujours facile de parler après, et pour le coup on sait pas mal, enfin je me suis en tout cas pas mal planté sur les prédictions d'avant-match, mais c'est pas étonnant d'imaginer que Gundogan n'a pas été nécessairement capable de faire des différences par la passe dans le demi-espace.
Oui, j'ai dit que Gundogan était un peu plus haut, avec Rodri au milieu de terrain. Flo, c'est vrai qu'il était un peu plus haut en théorie, aux côtés de De Bruyne, chacun un demi-espace, un Sterling qui évoluait un peu en retrait de Jesus, qui était vraiment l'attaquant qui partait au pressing. Après, on a plus souvent vu Gundogan en première décrocher plus près de Rodri pour s'insérer dans ces circuits-là. Mais on a vu énormément de neutralité dans le jeu de City. Et la comparaison avec Leipzig qu'on avait vu contre l'Atlético l'avant-veille est assez marquante, parce que Leipzig, tu avais aussi trois centraux, mais tu avais trois centraux qui avaient un jeu très vertical. Et finalement, tu n'avais que Kevin Campbell qui était devant la défense. Et tous les autres étaient très haut dans les demi-espaces ou très haut, partaient dans la profondeur. Attaquer le dos de la défense adverse, t'avais deux latéraux qui étiraient vraiment l'équipe adverse sur la largeur et t'arrivais à attaquer dans ces demi-espaces avec des appuis remises, des appuis soutiens. Là, on a vu beaucoup moins finalement de vitesse, de rythme dans la circulation de balles de City, et c'est assez triste de voir que le coach qui a inspiré les nouvelles générations comme Nagelsmann, sur le coup, en tout cas ce soir, son équipe n'arrive pas à faire la même chose que la troisième ou quatrième meilleure équipe de Bundesliga.
Oui, c'est ça. C'est que quand tu vois sa compo, Rodri et Gundogan, c'est très redondant. Quand tu vois les premières minutes du match, tu comprends assez vite que City ne veut pas chercher à attaquer à l'intérieur parce que l'OL est en 5-3-2, donc ça sert à rien d'aller dans la densité. Donc on se retrouve avec un système très étiré et quasiment un U en possession. Mais l'idée, c'est d'avoir ensuite de vraies capacités sur les ailes pour combiner. Donc à gauche, on avait d'un côté, on avait Laporte qui montait un peu fixé, et ensuite tu avais Gundogan, tu avais Cancelo et tu avais Sterling qui s'ajoutait pour apporter de la profondeur. Et c'est passé d'ailleurs plusieurs fois grâce aux appels de Sterling et Cancelo sur son pied droit. Mais de l'autre côté, là où De Bruyne a passé la majeure partie de sa première mi-temps, c'était beaucoup moins en capacité de construire, alors qu'en face, c'était peut-être théoriquement le côté le plus faible de l'OL, puisque c'était le côté où il y avait Maxwell Cornet. Et peut-être que si tu avais amené un défenseur capable un peu plus de fixer, capable de sortir, parce que Fernandinho a plus joué long pour chercher des espaces dans le dos que chercher à monter, à les fixer pour construire, peut-être qu'il y avait moyen de faire plus de choses. Donc c'est vrai que l'organisation de City offensivement, sur les côtés, n'a abouti à quasiment rien sur la première mi-temps, sauf quelques mouvements côté gauche. Et défensivement, il y a cette ligne de 5, à mon avis, pour protéger la profondeur que l'OL allait sans doute utiliser. Parce qu'on avait... Enfin, j'avais signalé après le match face au Real Madrid que les Madrilènes avaient raté des occasions de jouer long quand ils étaient pressés par Manchester City, d'allonger et de mettre la balle simplement dans le dos de cette défense qui a beaucoup de mal généralement, qu'il a montré en Première Ligue, qui avait beaucoup de mal à gérer ce genre de situation, pourtant pas très difficile à gérer pour une bonne défense. Là, l'OL s'est pas embarrassé face à un City qui a encore moins pressé. L'OL aurait peut-être pu remonter la balle plus facilement qu'il ne l'a fait face à la Juve, parce que City, au final, leur pressing était vraiment pas très très intense, ou en tout cas il y avait beaucoup moins de monde placé haut, puisqu'en même temps il y avait un joueur de moins pour aller presser, vu qu'il y avait un joueur de plus dans la ligne défensive. Donc Guardiola ajoute un défenseur supplémentaire dans sa ligne, a priori pour mieux gérer la profondeur, parce qu'il y a un joueur de plus sur cette ligne-là. Et en fait, malgré ça, Marçal, notamment sur l'action qui amène le 1-0, peut monter, mettre un ballon, un très bon ballon. Et là, il y a un problème d'alignement. C'est Walker, il me semble, qui court. Et puis ça fait 1-0. Et en fait, tu te dis que Guardiola a voulu couvrir un point faible qui apparaissait, enfin qui n'était pas apparu contre le Real, mais qui avait existé, parce que le Real n'en avait pas profité, n'avait pas essayé d'en profiter, pour des raisons assez inconnues d'ailleurs, pour revenir sur ce match. Et là, l'OL s'appuie là-dessus, parce que l'OL a déjà fait d'autres matchs où ils ont joué long, et ça a fonctionné avec un Toko Ekambi toujours bien dans ce genre d'appel à donner. Et bien Guardiola renforce ça pour pas souffrir dans ce domaine-là. Finalement, il change toute la structure de son équipe pour essayer de couvrir ce point faible. C'est ce qu'il dit en zone mixte, ou en tout cas c'est ce qu'on a compris en zone mixte, et en fait ça ne fonctionne pas. Donc en gros, il a déstructuré, il a changé sa structure pour masquer un point faible, et il en a perdu sans doute quelques points forts, ou en tout cas pendant 55 minutes jusqu'à l'entrée de Mahrez.
Ouais, tu disais la profondeur, c'est assez facile à gérer pour une bonne défense. Après, la première question à se poser, c'est: est-ce que City cette saison était une bonne défense? J'étais en train de vérifier leurs chiffres d'expected goals encaissés, concédé plutôt cette saison. C'est le chiffre de très loin le plus faible depuis l'arrivée de Guardiola à City, le plus faible dans le sens le moins performant, puisqu'ils étaient sous les 30 sur ces trois premières saisons en Première Ligue. Et cette année, ils sont à 37 concédés, ou 35, 37. Alors, ils restent premiers en Première Ligue dans ce domaine, mais ils sont juste devant Wolverhampton, juste devant United, juste devant Liverpool, alors qu'avant, ils avaient 5 ou 6 buts d'avance sur la concurrence quasiment chaque saison. Alors, on pourrait développer sur les raisons de cette faiblesse défensive, mais ce n'est pas forcément le sujet du podcast aujourd'hui. Mais c'est déjà un contexte qu'il fallait évoquer, c'est que City n'était plus déjà cette année cette forteresse défensivement pour diverses raisons qu'on peut d'ailleurs retrouver dans les podcasts précédents. Si vous trouvez les épisodes où on parle des gros matchs de City cette saison, on en parlait un peu. Le manque de créativité offensive, Christophe, Florent a mentionné Cancelo, et c'est vrai que Cancelo a longtemps été, en tout cas pendant quasiment toute la première période, la seule idée et la seule source de situation pour City, grâce à ce faux pied qui a lancé plusieurs fois Sterling dans la profondeur et dans le dos de la défense lyonnaise. C'est étonnant de voir que le joueur qui finalement n'avait pas réussi à s'imposer toute la saison est devenu, sur le match le plus important de la saison de City, la seule idée pendant assez longtemps.
Et ça fait partie des choses qui me semblent quand même assez préparées par Guardiola, parce qu'il y a beaucoup de trucs où j'arrive pas exactement à comprendre pourquoi il a fait tel ou tel choix. Alors je vais pas insister sur Gundogan, mais ça fait partie des trucs où j'ai beau prendre le problème dans tous les sens, à moins de me dire que peut-être qu'il espérait que Gundogan était une awar. Mais enfin voilà, c'est assez flou pour moi de savoir quelles étaient toutes les ambitions derrière ces choix, qui d'ailleurs sont tellement réfléchis parfois que je suis pas sûr d'avoir les compétences et les connaissances pour véritablement suivre ce qu'il a pu repérer et ce qu'il connaît de son effectif pour faire 2-3 choix. Mais je pense qu'en tout cas, Cancelo qui joue là en faux pied, autant face au Real, il avait pas nécessairement beaucoup utilisé son pied droit, lui qui joue à gauche, et pour le coup les défenseurs en faux pied, c'est généralement pour des choix défensifs, type Arbeloa qui est mis en faux pied avec Liverpool face à Messi pour pouvoir défendre le fait que Messi revienne sur son pied vers l'intérieur. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vraiment démocratisé, parce que bon, même si ça peut être intéressant face aux ailiers qui repiquent, hein, c'est une habitude totalement différente, et la défense se fait quand même beaucoup plus sur la répétition, alors que l'attaque se fait sur l'inspiration. Donc sur les 1 contre 1, si t'as jamais vraiment défendu du côté opposé, c'est pas parce que l'adversaire revient sur ton bon pied que ça va rendre faciliter les choses. Mais ça pour dire que Cancelo, sur le coup, j'étais un petit peu surpris, je m'imaginais plus un Mendy qui prendrait l'espace pour faire des débordements ou autre. Mais là, vu le match, en fait, finalement, il n'y a pas eu tellement d'espace, et je trouve, au-delà du fait Cancelo donc pouvait être orienté vers l'intérieur et faire des passes de son pied droit, et en plus Gundogan étant je disais demi-espace, mais c'est vrai qu'en plus il avait, là je suis en train de revoir le match, c'est vrai qu'en début de match il est quand même assez haut, et comme la balle ne lui vient pas toujours dans le bon timing, il a tendance à reculer, l'espace dans le côté gauche, le couloir est assez libéré pour Cancelo, et lui je trouve que contrairement à Mendy, il est beaucoup plus capable de s'associer. Alors c'est pas le meilleur joueur du monde pour ça, mais il a quand même des vraies qualités offensives, et il lance plusieurs fois Sterling, d'habitude passe qui est plutôt fait par le joueur qui est dans le demi-espace gauche, qui va trouver l'appel en profondeur et ensuite centrer en retrait. Là c'est Cancelo qui l'est fait, donc la trajectoire de passe par un peu plus de l'extérieur, mais globalement c'est le même circuit. À la fois c'était intéressant, mais ça fait aussi un peu aveu de faiblesse, parce que c'est Cancelo n'est pas censé être une source de créativité et quelqu'un qui doit t'amener les décalages, et ça peut c'est un peu embêtant, parce que même si t'es à 3, ça oblige ton défenseur à être toujours fixé très haut. Et mine de rien, Cancelo, même si c'est pas le plus rapide, il pouvait quand même, pourquoi pas, avoir un rôle à jouer sur le repli. Et deuxièmement, ça montrait aussi le fait qu'il n'y avait pas énormément de circuits sur le reste du terrain. Et on va dire que lui s'occupait de la créativité partie gauche, devant une partie droite, mais les deux étaient assez isolés, et c'était plus quelques moments sur autrement une circulation de balle assez neutre qu'un truc qui était répété des dizaines de fois.
Ouais, puis une autre résultante des modifications de Guardiola et de ses adaptations d'avant-match, Christophe, je finis avec toi avant de donner la parole à Florent, c'est que Walker, je pense, n'avait jamais joué aussi haut depuis très longtemps, puisque là, il était vraiment couloir droit, vraiment latéral, alors que quand même, il me semble, de tous les matchs que j'ai vus de City récemment, que c'était très souvent le troisième central, ou en tout cas ce faux central qui était entre le rôle de central droit et celui de latéral droit, une espèce de troisième central qui pouvait avancer balle au pied dans ce demi-espace. Là, on l'a retrouvé dans un registre dans lequel il n'a pas performé depuis son arrivée à City quasiment.
Mais c'est surtout que, bon, déjà, en fait, alors il est extrêmement rapide, et je pense que c'est sa qualité principale, hormis une certaine densité corporelle qui fait que, pour le coup, je pense que si je faisais des concours de curl avec lui à la salle, je pense qu'on s'amuserait bien, parce qu'il m'a l'air assez solide. Mais en fait, pour moi, son alors c'est pas un mauvais joueur, hein, mais il ressort surtout du lot par ses qualités physiques, cette vitesse. Et en fait, quand tu le mets piston, alors bien sûr, il est plus proche du but adverse, donc il peut t'apporter ça. Mais moi, je vois sa vitesse plus intéressante dans sa capacité à faire les courses de repli. Et là, pour le coup, bah, il avait plus de distance à parcourir, et ça se voit sur le penalty, non penalty, où il fait à moitié faute, et finalement, je crois que ça siffle hors jeu, donc du coup, il y a pas faute, mais bon, il va vite, mais s'il a 10 mètres de retard au départ, c'est assez compliqué. Donc ça, c'est le premier truc, et c'est vrai que ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, ça complète sur la défense à 3, c'est-à-dire qu'à la limite, faire une défense à 3, pourquoi pas, bien sûr, tu mets pas nécessairement Fernandinho, enfin tu mets peut-être Fernandinho dans l'axe à la place de Rick Garcia, alors c'est évidemment plus simple de parler après, hein. J'avais pas non plus cette idée avant le match, mais si tu mets Walker axe droit, bon déjà il l'a déjà fait, et même en sélection, donc c'est quelque chose qu'il est amené à faire depuis 2 ans, et lui aurait eu cette vitesse où il pouvait faire le match avec Cornet, Toko et Cambi, alors c'est voilà, mais disons il y a une vraie composition d'équipe qui existe. Ou donc tu mets Laporte axe gauche, Fernandinho axe et Walker axe droit, tu mets Cancelo sur son bon pied à droite et tu mets Benjamin Mendy à gauche. J'ai envie de dire que déjà là, ça me semble plus répondre à la problématique de la prise de profondeur lyonnaise, et je suis pas persuadé que tu perdes énormément en capacité offensive.
Florent, ça fait 15 minutes qu'on ne parle quasiment que de City, et les Lyonnais vont s'énerver, ils vont dire qu'on ne parle que de City, que de leurs erreurs et pourquoi Lyon a gagné, et que c'est aussi un peu grâce à Lyon. On va en parler, notamment avec cette défense de la surface, parce que la première période où on a vu les signes d'une possibilité pour Lyon, et d'ailleurs tu en parlais tout à l'heure avec les montées de Marçal et le fait que finalement en bloc médian, bah, City n'avait pas forcément d'idée pour presser Lyon, alors que bon, Lyon n'est pas forcément l'équipe qui a la ligne défensive la plus à même de jouer sous pression. Ça qui est paradoxal, c'est qu'ils ont presque moins pressé Lyon sur la première période qu'ils avaient pressé le Real.
Ah oui, non, mais totalement. Totalement. Ils ont moins pressé, ils sont moins sortis. Ce qui fait que même quand on en avait parlé dans l'avant-match, quand on avait fait la preview, on avait notamment évoqué le fait que voilà, il y avait ces histoires de longs ballons. Et personnellement, j'imaginais que si Manchester City décidait d'aborder ce match face à Lyon face au Real Madrid, quand ça repartait depuis le gardien de but, depuis Courtois, t'avais Sterling qui était très haut, collé à la surface par rapport à Militao, prêt à sortir. Enfin, il y avait trois mecs qui collaient vraiment la surface de réparation, avec Foden pour couper la relation vers Casemiro, et les deux attaquants qui étaient voilà, prêts à sortir sur Varane et sur Militao en coupant la ligne de passe vers les latéraux. Et je me disais, bah, face à Lyon, ils vont au moins se placer de la même façon. Et en fait, non, ils ont laissé Lyon ressortir court. Ils ont laissé Lyon sortir notamment via Marçal. Et puis, Marçal avançait un petit peu. Et le temps que, je pense que c'était De Bruyne le plus avancé pour venir le cadrer, le temps qu'il s'approche, il avait le temps de mettre son jeu long. Et sur le jeu long, Toko Ekambi faisait un appel en profondeur. Et Lyon gagnait 40 mètres très facilement et rentrait dans le camp de Manchester City. Donc... déjà sur l'approche de City et
Lyon, que... Florent, à la différence du Real, avait peut-être un milieu pour jouer les seconds ballons plus que n'avait le Real.
Oui, avec Aouar et Kakré, mais là c'est même pas le besoin de jouer des deuxièmes ballons parce que la balle passait par-dessus la défense de City et c'est Toko Ekambi qui l'a récupéré quasiment. Donc il y avait même pas forcément une énorme bataille sur les deuxièmes ballons, mais c'est vrai qu'en termes de mobilité et de vivacité. Sachant que De Bruyne généralement sur ses séquences de pressing faisait le troisième avec Jesus et Sterling, donc était plus haut dans le cœur du jeu. Tu te retrouvais avec Rodri, Gundogan qui en effet se retrouvait à la gratte avec Aouar et Kakré, et là en termes de mobilité, franchement sur ce 2 contre 2 l'avantage était côté lyonnais.
Je reste avec toi pour donc la défense de la surface. Ouais. On connaît les actions offensives de City, passe dans le demi-espace pour un appel de De Bruyne, de Sterling ou de David Silva qui l'a rentré très tard en cours de match, centre en retrait de City, arrivée d'un joueur lancé qui finit, d'ailleurs c'est comme ça que City a marqué, mais pour le coup jusqu'à ce but là Lyon avait très bien défendu cette action, et c'est ce qu'on peut mettre à leur crédit dans la préparation de ce match, c'est que c'est une action qui passe tout le temps en Première Ligue, qui passait souvent en Ligue des Champions, et là on a vu plusieurs fois Aouar, Kakré, Guimarães ou des centraux anticiper ce centre en retrait. Alors pas de Neuer parce qu'à chaque fois il mangeait une feinte et il était plus là, mais les autres se sont plutôt bien défendus sur ces séquences.
Ouais, ça se voit quand tu te penches sur les dégagements de Lyon sur ce match-là. Ils en ont fait 26, sachant qu'en plus, en première mi-temps, il y a eu, enfin, en termes de rythme, City n'a pas eu énormément de situations du genre, à part celle très dangereuse, justement, dès la 2 ou 3e minute, où c'est centre en retrait de Sterling, ou centre à ras de terre, et je crois que c'est Marçal qui la sort devant Gabriel Jesus.
Ouais, déjà, le premier tir de City intervient autour de la 30e minute, donc c'est un premier signe de leur ouais. stérilité en première.
Ouais, mais pour le coup, il y avait eu cette action-là. Mais c'est vrai que la défense de la surface était un point clé du match pour l'OL. Ça avait été un point très important de leur exploit face à Man City en phase de poule lorsque c'était Genesio sur le banc. C'était réalisme devant et au final, c'était quasiment les mêmes ingrédients. C'est-à-dire, on a eu une équipe réaliste devant, on a eu un joueur ou plusieurs, puisque à l'époque il y avait aussi Ndombele, capable de sortir de la pression tout seul. Au milieu de terrain et une défense capable de justement très bien défendre sa surface et de s'en tirer comme ça. Et au final, l'OL a ressorti dans un système un peu différent, il me semble. Je me rappelle plus exactement comment il jouait à l'époque, mais l'OL a ressorti les mêmes points forts en fait que lors de ses performances en phase de poule face à City. Et c'est vrai que la défense de la surface, quand tu vois joueur par joueur, là, sur les défenseurs, Denayer en sort 5, même si, en effet, il a pris quelques vents. Marcelo en sort 6, Marçal en sort 4, Dubois en sort 4. Et après, Cornet en sort 2, mais je suis pas sûr que ce soit forcément dans la surface de réparation, c'est-à-dire dans la zone plein axe où généralement, City termine ses actions.
Parlons un peu des performances individuelles, Christophe, parce que c'est l'occasion avec les stats citées par Flo. Il y a une belle performance de Marcel, un Marcelo qui s'est plutôt bien défendu, même s'il y a eu quelques fautes gratuites. On a senti qu'il a bien aimé mettre un taquet à un moment, je ne sais plus quel joueur, peut-être De Bruyne. Performance aussi pas mal de Denayer, à l'exception de ses séquences face à Sterling, où à chaque fois il s'est fait avoir. Il y a quand même pas mal de mecs qui se souviendront peut-être de leur match, de ce match-là, comme le meilleur de leur carrière, à moins bien sûr que la demi-finale face au Bayern ne me fasse mentir.
Ouais, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement personne n'est totalement sorti de son rôle, et ceux qui en ont fait plus, c'est ceux qui étaient capables de le faire. Typiquement, Aouar fait plus entre guillemets que certains de ses compères, mais c'est parce qu'il a cette capacité à ressortir les ballons sous pression, à lancer des attaques, à faire que des actions un peu lambda deviennent des transitions, parce que sur la prise de balle, sur le premier rush, il va réussir à mettre deux mecs dans le vent ou alors un seul. Mais le deuxième à distance suffisante pour s'ouvrir un angle de passe. Donc en fait, je sais pas si... Bon, déjà, tout le monde était à son niveau. Tu vois, je pense pas qu'il y ait vraiment d'énormes révélations. C'est-à-dire que pour moi, tout le monde a joué à 100%. J'ai rien appris, entre guillemets, sur la performance de certains joueurs. C'est juste que à peu près tout le monde... Alors on peut argumenter le fait que Bruno Guimaraes fasse sans doute pas le meilleur match de sa carrière par rapport à ce qu'il a montré sur les premiers matchs où vraiment il sortait du lot. Et peut-être justement que s'il sortait du lot, alors il aurait pu mieux faire, hein, mais s'il sortait autant du lot, c'est aussi parce qu'il y avait Touzard avant qui était dans un rôle totalement différent, et deuxièmement parce que les partenaires étaient aussi un peu moins bons. Donc ça, c'est une première chose. Mais c'est vrai que tu vois, j'ai pas vu Marcelo, Marçal, etc. faire des choses nouvelles. Par contre, ils ont tous fait le meilleur match ou pas loin de leur carrière, en tout cas dans le sérieux défensif. Et ce qui est à noter, en fait, c'est ça, c'est que tout le monde a été sérieux là-dessus. Il n'y a pas eu d'énormes révolutions tactiques, on va dire, bravo Rudy Garcia. Simplement, il a réussi à faire que son équipe soit ultra concentrée, ultra mobilisée sur tout le match. Bon, même s'il y a deux temps, malgré tout, c'est-à-dire qu'il y a toute la phase où c'est un tempo assez lent, où City place ses attaques. Alors même si Lyon a réussi à tenir le ballon, c'était pas 70-30 comme j'aurais pu l'imaginer. Mais voilà. C'était 70-30 quand même,
ouais, hein, genre jusqu'à la 60e. 72-28 sur Oscar.
Ouais, 72-28, mais oui, en effet, ça a dû accélérer à la fin. Avant l'entrée de Mahrez, on est sur 68-31. 68-32.
Je pensais moins, mais ça aussi, parce que là, je suis en train de voir la rediff, et à la 20e, là, il y a quelques séquences de possession de Lyon. Mais tu vois, comme quoi, je pensais pas. Mais donc, j'enlève cette partie-là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même deux phases du match. Il y a la phase où le match est très calme, et Lyon se contente de bien défendre, et si ça peut ressortir le ballon proprement pour vite lancer dans la profondeur, ça le fait. Et sinon, bon, on reste solide, donc on cède pas grand chose. Et ensuite, il y a le moment où City, marque le but. Ça s'est déjà un peu accéléré avant, avec l'entrée de Mahrez, même s'il faut quelques minutes avant que vraiment tu vois l'effet du changement de système sur le rythme du match. Et puis ensuite, où t'as un bon quart d'heure où c'est entre guillemets n'importe n'importe quoi, pardon. Et donc, t'as un peu le retour des matchs avec Genesio où ça partait d'un but à l'autre et c'est l'équipe qui sera la plus réaliste. Mais non, non, enfin, chapeau aux Lyonnais. Et pour le coup, ça confirme que Marcelo, par exemple, est un très bon défenseur de surface et qu'il faut peut-être pas lui demander trop de choses avec le ballon, même s'il a pas les pieds carrés. Mais à partir du moment où il a pas joué à 40 mètres de son but, tu vois pas nécessairement son manque de vitesse. Et là, pour le coup, je trouve que si Rudy Garcia a un avantage assez intéressant, c'est que le système de jeu qu'il a trouvé depuis quelques temps est un système qui est plutôt réactif et qui s'adapte parfaitement pour contrer les grosses équipes. Autant ce système-là, je pense que tu pourras avoir des difficultés à l'animer face à une équipe qui t'attendrait un peu. Et je suis pas sûr qu'en championnat, t'aies pas un peu les mêmes limites, le problème de stérilité, parce que tu verrais surtout le manque. Alors même si Toko Ekambi fait plutôt un bon match sur le plan technique, mais le fait qu'il est quand même plus intéressant quand il va prendre l'espace que quand tu dois le servir dans les petits espaces, jouer en appui remise ou autre, mais ça dépendrait beaucoup plus de la capacité des Kakré, des Aouar à casser les lignes. Là, c'était propre, c'était solide, c'était bien fait. Et il n'y avait pas besoin de faire autrement, donc Garcia n'a pas eu à changer ses plans, et c'était vraiment bien, même un ton au-dessus par rapport à ce qui était fait dans le même système face à Paris.
Belle performance, pardon, d'Anthony Lopez aussi, qui en sort quelques-unes, les coups francs de Bruyne, il en sort une devant Sterling, il y a quelques arrêts importants dans le match. D'ailleurs, je pense qu'il doit être sur pas mal d'arrêts, parce que City est fini à 18 tirs, et je pense qu'il est au moins à 4 ou 5 arrêts importants sur cette rencontre. Parlons un peu du milieu à 3, Florent. Christophe parlait du match en deux phases. La première où Lyon a eu le ballon et a eu finalement des situations assez intéressantes. La deuxième où ils ont souffert et puis ils marquent finalement juste après l'énorme temps fort de City. Et c'est ce qui les sauve sur cette fin de match, parce que quand De Bruyne égalise, tu te dis ça va tourner pour City. Mais d'abord le milieu à 3. Une question de Nadalito dans un premier temps. Nadalito qu'on aime bien parce qu'on rappelle que c'est un patron sur Patreon, c'est la vue du banc saga, donc raison de plus qui pose une question. Le milieu Aouar, Kakré, Guimaraes n'était finalement pas plus ambitieux que celui de City? C'est une question, hein. J'ai pas mis le ton, mais ouais. C'est une question. Qu'est-ce que tu penses de la comparaison des deux milieux, Aouar, Kakré, Guimaraes, et de l'autre côté Rodri, Gundogan, De Bruyne?
On a déjà évoqué le sujet quand on a parlé de la compo de Guardiola, mais Rodri Gundogan, c'est redondant. C'est deux numéros 6 à City. Gundogan, pour moi, n'est pas forcément un joueur très pertinent à partir du moment où il est dans le L space, où il doit aller dans le dernier tiers. D'ailleurs, tu as fait la remarque tout à l'heure. C'est un joueur qui, au bout de quelques minutes, a arrêté de jouer assez haut et finalement s'est effacé dans les constructions côté gauche pour laisser un peu plus... Cancelo faire le jeu et apporter de la créativité avec Sterling. Donc à partir du moment où tu avais ce gars-là qui jouait plus bas et qui était plus là pour couvrir qu'autre chose, moi je vais reparler de City, mais quand tu vois la compo, tu te dis au bout de 25-30 minutes, alors qu'en plus City est mené, Rodri Gundogan, tu dois en sortir un, peut-être replacer De Bruyne un peu plus bas dans le milieu de terrain et ajouter un deuxième élément aussi créatif que De Bruyne, même si bon, il y avait personne sur le banc aussi créatif que De Bruyne, mais soit un David Silva, soit un Bernardo Silva dans ce cœur du jeu, dans les all-space, pour justement apporter quelque chose côté gauche où jusque-là il n'y avait rien. Enfin, côté gauche ou côté droit d'ailleurs. Enfin voilà, avoir un deuxième élément aussi créatif que De Bruyne en gros. Et ça, on l'a pas vu, et c'est vrai que côté lyonnais, Guimaraes, Kakré, Aouar, comme l'a dit Christophe, Guimaraes on l'a un petit peu moins vu. D'ailleurs, il a touché assez peu de ballons dans le match. Au total, il touche 26 ballons. C'est quand même moins que Kakré qui en a touché 39, et beaucoup moins qu'Aouar qui en a touché 49, qui est le Lyonnais qui a touché le plus de ballons sur ce match.
C'est le seul des trois qui sort d'ailleurs, hein, remplacé à la 69e par Mendes.
Par Thiago Mendes, oui. Mais Kakré a apporté à nouveau une activité assez énorme. Là, j'ai récupéré encore les chiffres sous les yeux, mais 7 tacles, 2 interceptions, 1 dégagement, 2 ballons contrés.
7 tacles tentés, 3
oui.
réussis.
Oui, 3 réussis.
En termes de réussite, il est premier en tacle et premier en interception.
Ouais, et ensuite, Aouar a fait à la fois... a apporté sa pierre à l'édifice sur le plan défensif, notamment en coupant pas mal de trajectoires, puisqu'il sort avec 5 passes contrées, et avec 4 tacles qu'on peut ajouter par-dessus. Et Aouar, évidemment, faut ajouter par-dessus tout ça les dribbles, et sa capacité à sortir de la pression. C'est le joueur qui a le plus dribblé du match avec Cancelo. 6 dribbles tentés, 4 réussis, et c'est le joueur qui a le plus réussi du dribble du match. Et en plus, bah, t'as sa quasi-passe décisive. Je sais pas si elle était comptabilisée, vu qu'elle part de loin quand même.
Visiblement, pas sur le site WhoScored.
La passe pour Dembélé, si, sur WhoScored, elle est...
Pardon, je suis sur la mauvaise fiche, et du coup, ils n'avaient pas mis affiché, mais oui, en effet, c'est allé comptabiliser comme passe D. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de séquences où le fait qu'il résiste à la pression est quasiment une passe D, Flo, sur les actions de l'OL.
Ouais, donc il y a cette passe D, il est aussi sur le but, le deuxième, vu que c'est lui qui frappe, sur la... enfin le troisième, pardon, le dernier du match, puisque c'est lui qui frappe sur Ederson qui la relâche et qui permet ensuite à Dembélé de marquer son deuxième but. Donc ouais, avoir prestation XXL, et c'est sûr que voilà, pour faire simple, si tu mets Gundogan, si tu échanges Gundogan et Aouar, je pense que tu échanges le résultat final du match, et je pense aussi que c'est ce que va peut-être essayer de faire Manchester City cet été.
On a eu beaucoup de belles performances individuelles sur cette phase de quart de finale, Christophe, avec Neymar, avec qui d'autre, au Bayern, il y en a eu pas mal. Du côté de Leipzig aussi, il y en a eu quelques-unes. Là, pour le coup, Aouar, on l'avait déjà trouvé très bon en finale de coupe contre Paris. Là, contre City, on rigolait un peu dans les derniers épisodes en se disant, ça y est, il va faire son transfert là-dessus et il va ramener quelques dizaines de millions en plus à son club formateur. Il sort un match vraiment énorme dans un contexte en plus pas facile parce qu'il était souvent pressé par deux ou trois joueurs. Alors c'est un mec dont la carrière est un peu particulière parce qu'il sort en tant que numéro 10, puis après un moment avec Genesio, il joue quasiment numéro 6. Je me rappelle d'un derby contre Saint-Etienne où dans un rôle de limite de Regista, il est exceptionnel. Là, il a pris un peu de masse musculaire, il revient dans un rôle de 8 après un début de saison où il était un peu critiqué parce qu'il était un peu nonchalant, un peu mou. Et finalement, il est tellement monté en puissance que là, il rivalise avec De Bruyne sur le match et il fait un meilleur match que lui. Et tu te dis, qu'est-ce qui l'empêche finalement dans quelques années de faire ce que De Bruyne fait aujourd'hui ?
Ouais, alors c'est vrai que De Bruyne, j'ai 2-3 interrogations sur certaines choses qu'est capable de faire De Bruyne. Je sais pas si un jour, Aouar aura, mais c'est tout con, hein, mais genre la frappe de balle, par exemple, une fois que t'es à 20 mètres. Niveau explosivité, masse musculaire du haut, etc. Il y a, enfin, du haut, du bas, je pense qu'il sera peut-être 5% en dessous, mais il y a des choses que Aouar sait faire un cran plus bas que peut-être que De Bruyne ne sait pas nécessairement faire. C'est-à-dire que De Bruyne s'est quand même fixé dans un rôle, même s'il est amené à jouer, entre guillemets, sur la position, quand tu couches ça sur la tactique, sur l'aspect phase défensive des 4-3-3 machin, c'est en gros le numéro 8 couloir droit, mais dans les faits il joue jamais réellement numéro 8 puisque City a quasiment tout le temps la balle et quand ils l'ont pas, ça presse à la perte pour récupérer. Donc du coup il est rarement fixé dans cette position où il est à droite du numéro 6 du 4-3-3, un petit peu tel que les compos sur Soccer Way ou autre le place au début de match, alors que Aouar, je pense, est bien plus capable de jouer à côté d'un numéro 6. Et vraie question d'ailleurs de savoir en gros quelle doit être l'évolution d'Aouar selon le club dans lequel il joue, parce que j'ai l'impression que il a dans cette équipe de Lyon, en tout cas, même si effectivement il y a cet aspect d'enchaînement ou autre qui est d'autant plus valable quand tu vois faire des matchs comme ça, tu te dis que du coup ça explique d'autant moins les mauvais matchs qu'il a fait, sauf par un manque d'investissement, un manque de confiance, voilà. Mais en tout cas, ça prouvait qu'il avait le niveau pour faire mieux il y a quelques mois. Mais je le vois moins avoir les qualités d'un Fekir qui, alors qu'il n'a plus cette diversité, mais qui pour moi doit osciller entre 9, 9,5, 10, mais que j'ai du mal à voir beaucoup plus bas. Qu'est-ce que doit être Aouar? Et je pense qu'il a un plafond plus haut en tant que numéro 8 qu'en tant que numéro 10. Le souci, c'est combien de matchs, et ça dépendra aussi du club qui va choisir, combien de matchs il aura joué dans ce style de rencontre-là, dans ce style d'opposition, parce que City aurait besoin de lui. Effectivement, là, si tu le mets à la place de Gundogan, qui va prendre très cher sur ce podcast, on est désolé pour lui, mais voilà, si tu le mets à la place de Gundogan, je pense que c'est intéressant. Après, je pense qu'il est moins créatif que David Silva, et finalement, sa capacité à ressortir la balle sous pression, à vraiment mettre le jeu dans le bon sens, dans une équipe comme City qui se fait pas tellement presser, alors elle se fait parfois presser en Ligue des Champions et ça lui a joué des tours, mais 90% du temps City affronte des blocs bas, Et finalement, ce rôle-là et ces qualités-là qu'il a plus bas sur le terrain, avec cette fiabilité ou autre, parce que aussi, contrairement à un numéro 10 qui peut se permettre de prendre des risques quand t'es relativement proche de ton but, faut être sûr de réussir tes dribbles, ben je le vois comme numéro 6 en fait. Et c'est ça qui est un peu étonnant, c'est-à-dire que je pense vraiment City aurait besoin de lui, mais sur un 4-3-3, je pense qu'il est, il est actuellement moins bon qu'un Bernardo Silva, par exemple, que j'aurais vraiment bien vu à la place de Gundogan, qu'un de Kevin De Bruyne dans sa capacité à faire vraiment inventer des choses, à faire des passes de l'extérieur ou autre. Il n'est pas ultra loin, hein, bien sûr, mais je pense qu'il a encore un petit décalage et qu'il doit progresser sur cet aspect-là. Par contre, je le vois bien meilleur, même qu'un Rodri ou autre, devant la défense. Mais est-ce que c'est pas gâché? Donc j'avoue que toujours...
Au Real, peut-être, pour remplacer Modric, par exemple.
Par exemple, au Real, effectivement. Mais encore que, enfin, c'est toujours pareil, le Real se fait un peu moins presser parce qu'en Liga, ça attend un peu plus.
Tu l'envoies à Retafe, qui va se faire presser, ou qui presse.
Non, mais je veux dire, en gros, s'il avait que des matchs de Ligue des Champions à jouer face à des adversaires comme ça, au Real, à la place de Modric, pour moi, ça serait parfaitement logique. Mais en fait, j'imagine aussi toutes les rencontres où il affronte le Lyon de ce soir, en fait. Une équipe qui est plutôt réactive, et je me dis quel est le meilleur poste pour qui brille. Alors c'est une bonne question à avoir, parce que s'il n'y a pas de réponse, ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités, mais je suis pas encore défini et définitif sur son profil. Après, il a que 22 ans, et à 22 ans, De Bruyne est encore loin de ce niveau-là, donc c'est plutôt intéressant pour l'avenir.
Ouais, bon, Liverpool en tout cas, s'il veut, moi ça m'intéresse. Je suis en train de vérifier en même temps, est-ce que De Bruyne à 22 ans était vraiment si loin de Oussem Aouar?
Bah, je me demande si c'est pas le moment où il est en échec à Chelsea, mais je me trompe peut-être.
22 ans, c'est 2013, puisqu'il est de 91, et 2013, il sort d'une saison à Brême avec 10 buts et 9 passes D. Donc, il y a
donc bagarre. Aouar est quand même devant là. Aouar,
oui,
une demi-finale de Ligue des Champions.
Ouais.
Mais de base, c'est pas exactement le même profil et c'est pas la même évolution de carrière. Donc,
La vraie période difficile, c'est un peu après, et puis il explose vraiment à 24-25 ans à Wolfsburg quand il claque une saison quand même à 10 buts et 20 passes D en 34 matchs de championnat. Notamment un match, je crois, où il écrase le Bayern de Pep, il me semble, où il fait, je crois, 2 buts ou 2 passes D, voire les deux. Donc, il faudra vérifier pour les historiens du foot. Mais c'est ça, vraiment, sa très très grosse saison. Passons à l'attaque de la profondeur, Florent. Ah non, j'avais une question avant, d'ailleurs, pour vous deux, une question d'Andrés, qui nous dit, une question qui n'est pas du tout foot, qui nous dit, messieurs, un avis ou une analyse même sur la coupe de cheveux de Cacré.
Non. C'est un énorme niette, ici. C'est totalement refusé. Après, c'est lui qui la porte, donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai du mal à voir le projet. Je ne sais pas ce que c'est censé représenter. Mais
je trouve quand même que ça va assez bien au style du joueur. Sur le côté avec ballon. C'est-à-dire que ça colle pas à son côté très hargneux, très gratteur de ballon. Parce que c'est une coupe assez... la coupe slick back, à limite mafieux des années 30, tu vois. Mais sur le côté, ce qu'il fait avec ballon, je trouve que ça va avec son jeu un peu soyeux.
Je trouve que ça passerait mieux s'il était brun.
C'est vrai, il faudrait limite qu'il change de coupe quand Lyon perd le ballon. Ça, je l'accepterais. Un truc
ça a l'air tellement.
Quand Lyon perd la balle.
Ouais, un truc à la limite. Il se rase la tête entre chaque perte de balle.
Non, mais le truc, c'est que ça a l'air de bien tenir. Donc, je pense que soit il a de la chance et ses cheveux sont faciles à coiffer, soit il se gomine ou autre. Mais du coup, s'il a juste à mettre la main dans les cheveux pour que ça fasse un peu punk, rock'n'roll, et ensuite à rebaisser, finalement, ça peut se faire en cours d'action, quoi. C'est pas...
Oui, et puis quand tu as dit « ça a l'air de tenir », du coup, je me suis dit qu'on n'était pas vraiment en position d'avoir un avis sur les cheveux des autres.
Oui, parce que non seulement nous, ils ne tiennent pas dans une position, genre tu fais une mèche, elle tombe, mais ils ne tiennent pas sur notre tête du tout. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent au sol. Donc
c'est d'ailleurs en grande partie pour ça qu'on fait des podcasts et pas des lives YouTube, hein, on l'explique souvent.
Donc voilà, le fameux physique de radio.
Ne nous embêtez pas avec vos lives ou vos Twitch, etc. On est très bien visage caché, bon, même si nos visages sont assez facilement trouvables, à cause de nous d'ailleurs, dans la plupart du temps, parce qu'on commence même à poster des photos de nos conversations, et puis il y a souvent mes sosies qui sont en image de mes conversations, donc vous devinez à peu près ma tête, vous enlevez les cheveux, c'est celle-ci. Flo, l'attaque de la profondeur, redevenons sérieux, on a parlé des limites de City dans ce domaine-là, qu'on avait entrevu contre le Real qui n'avait pas été exploité. Bah, ce qu'a bien fait Lyon, c'est ce relais Toko Dembélé, puisque Toko a démarré le match, il l'a fini aussi, mais au moment où il a un peu plongé physiquement et logiquement, Rudy Garcia a sorti de paille et puis il s'est dit maintenant ça y est, on fait la double lame, les deux coureurs, et puis Dembélé il rentre, il marque un premier but sur une attaque de la profondeur, un deuxième un peu différent. Mais des 3 buts de Lyon, et finalement, je ne sais pas si Lyon a finalement plus de 3 situations, peut-être une 4e, mais je...
pas vraiment. Après, il y a les tirs de Marçal. Il y a les tirs de Marçal.
Ouais, il y a Cornet dans le dos de Walker qui est un peu voilà, ouais. Qui, une autre situation sur la situation où on sait pas trop s'il y a hors-jeu, péno ou juste ballon récupéré par City. Mais en tout cas, voilà, le plan de Lyon était clair, il a fonctionné. Cette attaque de la profondeur, c'est un peu un thème des quarts de finale de Ligue des Champions quand même.
Ouais, c'est vrai que ça se répète après ce qu'on avait vu face à. Pour le PSG face à l'Atalanta. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en effet, quand Garcia démarre avec Depay et Toko Ekambi, et que tu vois que Toko fait quand même beaucoup d'appels et que Lyon envoie beaucoup de longs ballons, tu te dis forcément, dans l'évolution du match, tu te dis quand il va baisser de pied, comment est-ce que Garcia va procéder, qu'est-ce qui va se passer. Et ça a été fait. Il y a eu deux choses, parce qu'en cours de deuxième mi-temps aussi, l'OL passe en 4-5-1. Avec un cornet qui est un peu plus haut sur le terrain et c'est lui justement qui va donner quelques appels, et notamment l'appel dont tu parlais dans le dos de Walker qui amène jusqu'à l'action très très litigieuse dans la surface de réparation. Donc il y a eu cette petite modulation parce que peut-être que en effet Toko Ekambi avait un peu plus de mal à faire ses appels, il est passé côté droit pour mieux défendre sur la largeur et je pense empêcher City de toucher les joueurs de côté plus facilement en deuxième mi-temps. Et donc il y avait ces deux joueurs de côté et Cornet a amené en deuxième mi-temps en partie les appels que Toko Ekambi ne pouvait peut-être plus faire à ce moment-là du match. Et ensuite après ce court relais, il y a eu l'entrée de Dembélé qui en a apporté aussi, mais c'était un peu différent avec Dembélé vu que ça vient de, enfin, l'appel qui amène son but, ça vient surtout d'une récupération de balle. C'est pas un long ballon cette fois, c'est Aouar qui récupère la balle au milieu, un ballon gagné par Kakré, je crois, qui s'ouvre un moyen pour donner la balle en profondeur. Donc voilà, bah oui, très bien fait côté lyonnais. Il y a pas grand chose à redire, mis à part le fait que City.
Mais tu vois, sur le match contre le PSG en Coupe de Ligue, on avait dit qu'ils avaient plutôt mal attaqué la profondeur. Mais là, ils ont quand même corrigé ça. Alors, le City défendait beaucoup plus haut que le PSG, mais on avait aussi regretté que le Real soit pas capable de comprendre que quand l'espace, on te le donne dans la profondeur, bah, tu peux y aller, t'es pas obligé de relancer court. Bon, Lyon s'est jamais embêté à relancer court avec cette défense-là, mais enfin, paradoxalement, ils l'ont un peu fait quand il s'est revenu à un partout. On en a parlé vite fait sur la conversation. Et il y a eu une égalisation et d'un coup ils se sont mis à relancer court, ils ont quasiment une situation comme ça, ils ont quasiment un contre aussi pour revenir. T'as l'impression que pendant 10 minutes ils se sont emballés, ils sont sortis du schéma.
Mais il y a eu une période après le but, il y a eu un petit moment de flottement en deuxième mi-temps où t'avais l'impression aussi que le match s'ouvrait encore plus alors que pour l'OL c'était pas forcément l'intérêt, et tu sentais par exemple des milieux qui voulaient un petit peu plus avancer, sortir. Mais derrière une ligne défensive qui était assez peu encline justement à remonter le bloc, et il y a eu une période où j'ai senti ça flotter côté lyonnais. Il y a une période notamment où City commence à trouver des ouvertures à l'intérieur qui n'existaient pas jusque-là et qui venaient plus de la distance assez nouvelle entre la défense et le milieu lyonnais que d'une véritable accélération du tempo côté City, ou en tout cas dans le cœur du jeu. Donc il y a eu une période en deuxième mi-temps où c'est devenu un peu fou, et je pense que Christophe en parlera après, c'est cette période-là où en effet Lyon s'en est mieux tiré en mettant ses occasions quand City en a croqué quelques-unes.
Ouais, je me souviens surtout d'une sortie de balle de Lyon où Anthony Lopez joue court sur un 6 mètres, ils arrivent à éliminer la première et la deuxième ligne de City, ils perdent le ballon et derrière ça revient très vite. Et puis il y a un ballon qui, je crois que c'est Sterling qui est décalé ou Jesus qui est décalé, qui n'arrive pas à s'ouvrir un angle de frappe.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Séquence assez, paradoxale par rapport à ce qu'avait prévu Lyon et fait Lyon sur le reste du match. Christophe, les corrections de Pep Guardiola sont arrivées en deuxième période. On aurait pu imaginer après la première qu'un changement soit fait à la mi-temps. Finalement, ça a pris 10 minutes de plus avec l'entrée de Riyad Mahrez à la 56e à la place de Fernandinho. Ça passe pour le coup à une vraie défense à 4. Et Mahrez va jouer côté droit le rôle que jouait Cancelo côté gauche en première période, c'est-à-dire le faux pied qui va pouvoir trouver des appels dans les demi-espaces avec une qualité de dribble et technique supérieure. C'est un changement qui est arrivé tard, tôt, qui au bon moment, ou peut-être un peu seul, parce que finalement le deuxième changement de City, il intervient 30 minutes plus tard. C'est David Silva à la place de Rodrigo, David Silva qui va avoir 10 ballons et à chaque fois casser deux lignes. Mais c'est assez bizarre que Guardiola, qu'on a longtemps vu comme un des vraiment coach spécialisé en micro-tactique et en adaptation en cours de match, on fait finalement assez peu sur cette rencontre.
Oui, bah oui, parce qu'il n'y a même pas vraiment de micro-tactique, puisque c'est vraiment quand il change le système. Mais sinon, tu vois, le fait que Gundogan décroche, je pense là, pour le coup, c'est un truc assez organique du joueur qui trouve qu'il n'est pas suffisamment impliqué dans le jeu, qu'en fait, il n'arrive pas à recevoir les ballons. Quand il est plus haut, il n'arrive pas à s'orienter, donc du coup, il se sent plus utile en l'ayant face à lui, donc du coup, en se proposant un petit peu plus bas où il y a moins de densité. Mais quand Guardiola touche son effectif à la mi-temps, moi, clairement, je m'attendais. En plus, là, t'as le côté, donc t'as droit à 5 changements par 3 vagues, mais la mi-temps ne compte pas comme une vague de changement. Donc, du coup, tu peux en faire un à ce moment-là et il t'en restera 4 changements possibles sur 3 vagues. Donc, du coup, ça te laisse toute cette flexibilité pour changer les choses. Bon, là, il termine le match à 2 changements. J'avoue que je suis un petit peu surpris quand tu vois le banc. Bernardo Silva qui reste notamment, voire même un Foden. Alors, même si Foden.
Jean-Marc Mendy aussi qui aurait pu apporter autre chose dans un couloir.
Pourquoi pas, ouais, non, mais enfin, vraiment, il avait beaucoup d'options à utiliser sur le banc. Et en fait, bon, là, pour le coup, autant avant match, je me disais, bon, pourquoi pas avoir le côté De Bruyne qui va naviguer autour de Cornet, ça peut être intéressant. Autant quand tu vois que ça marche pas, assez vite avec Florent, je pense, au bout de 20 minutes, on était tous les deux sur l'idée de se dire, sort Fernandinho et passe à 4 derrière, enfin, en tout cas, je fais un truc. Clairement, moi, mon idée, c'était sort Fernandinho pour Mahrez, par exemple, ou Bernardo Silva, et ensuite sort Gundogan pour l'autre Silva, et met Silva et De Bruyne chacun dans un demi-espace, comme c'est un peu l'habitude, repasse à 4, et met Jesus en pointe, Sterling sur un côté, et Mahrez de l'autre, par exemple, et il le fait, enfin, il fait une partie, parce que finalement, le Silva ne va rentrer qu'à la 84e à la place de Rodri et pas à la place de Gundo. Et alors, d'abord, je trouve que ça ne change pas grand-chose. Ça varie un petit peu la manière dont tu vas attaquer l'adversaire. C'est-à-dire que là, tu auras vraiment Mahrez qui, côté droit, va fixer. Et en gros, ça fait une menace qui va venir d'un endroit différent. Alors qu'avant, j'avais vraiment l'impression que c'était en fonction du déplacement de Sterling. Là, d'ailleurs, à l'écran, j'ai encore la fois où Sterling est lancé côté droit. Il centre pour Rodri. Rodri qui, au lieu de frapper, décide de faire une passe puisque visiblement, il a une volonté d'anémique parfois, ce mon Rodri. T'as l'impression qu'il a pas tellement la niaque, malheureusement. Pour un ancien joueur de l'Atlético, c'est un petit peu embêtant. Mais c'est vrai que d'abord, je trouve que ça, en gros, ça te fait partir sur le truc un peu classique des ailiers type Mahrez qui vont avoir des 1 contre 1 à jouer face à leur défenseur. Et tu vas dire, ah tiens, comment est-ce que Lyon va gérer le fait qu'a priori, il vaut mieux le prendre à 2. Mais du coup, si tu le prends à 2, ça peut ouvrir des espaces si vraiment City attaque en nombre. Et City va de plus en plus augmenter la jauge sur le nombre de joueurs devant le ballon ou alors à proximité pour presser à la perte. Et là, ça devient un truc un peu fou. Ou c'est-à-dire que y a beaucoup de joueurs dans la surface adverse ou pas loin qui sont en position de marquer, ce qui finalement est un truc qui ne t'expose pas nécessairement défensivement, hein, parce que l'Atalanta attaque toujours énormément, et sur le but de Leipzig, le but de la tête d'Olmo, le premier but hier, je crois de mémoire qu'ils sont 6 dans la surface peut-être, 5, enfin en tout cas c'est un truc vraiment énorme, et deux équipes qui n'ont pas non plus pris des milliards de transitions offensives. Et là par contre City aura des occasions, mais va s'exposer de manière énorme. Alors c'est pas exactement la même situation, mais ça m'a rappelé un peu le début de match du Bayern où là vraiment à chaque fois que le ballon était perdu et que le porteur n'était pas cadré, ça balançait des ballons en profondeur et tu savais que c'était un peu un qui tout double. Là c'était qui tout double, après t'as 3 énormes situations pour City, une pour Lyon et Lyon met la sienne et ensuite Lyon va plier le truc. Mais en fait c'est assez étonnant dans la mesure où il n'y a pas eu de demi-mesure dans ce match. C'est-à-dire que là, je vois un article au moment où je vous parle que Philippe Auclair a fait sur Eurosport où il dit « Guardiola préfère dogmatiser le football de son équipe plutôt que d'embrasser le chaos qui peut parfois régner au sein d'un match. » Et en fait, je trouve que Guardiola a choisi ou subi, je sais pas, peut-être qu'il voulait pas que son équipe se déséquilibre autant, mais en fait, a fait basculer le match dans le chaos alors qu'il y avait un moyen de faire que son équipe domine et s'expose, mais d'avoir une espèce de juste milieu. Là, je trouve que c'était extrêmement restrictif juste sur l'idée de rien concéder. Et ensuite, c'est un peu parti en vrille sur l'idée, allez, on est meilleur qu'eux, on a plus de talent, on a des chances d'avoir plus d'occasions. Donc, si on est relativement réaliste, on va gagner.
Ce qui colle un peu à une déclaration de Müller dans un article de The Athletic que je t'ai envoyé là dans la soirée d'ailleurs parce que tu voulais le lire, sur les adaptations parfois trop pensées de Pep Guardiola dans ses grandes occasions Ligue des Champions, où je crois que Müller expliquait que Guardiola préparait extrêmement les matchs comme ça contre les grosses équipes et qu'il était toujours tiraillé entre le fait de s'attacher un peu aux forces de ces équipes-là et d'essayer de les contrecarrer et de miser vraiment sur des modifications adaptées à ce match ou juste s'appuyer sur les forces de sa propre équipe. Et Müller, je crois, disait bah, parfois il est tellement hésitant entre ces deux trucs que même nous, on ne sait pas trop ce qu'on est censé faire.
Ouais, c'est ça. Il dit parfois c'est pas 100% clair sur ce qu'on fait. Et pour être précis, parce que je pense que c'est aussi important, et c'est pas une critique contre Lyon, mais voilà, c'est même pas contre les gros adversaires, c'est dans les knockout games, donc les matchs à élimination directe, quoi, de phase finale.
Et les grosses adversaires.
Ouais, c'est ça, parce que je pense qu'en fait, si Lyon est joué en championnat, bon, c'est aussi le truc tout con de... En fait, en championnat, les matchs s'enchaînent tellement vite que, au-delà du fait que t'essayes de faire un projet, de créer des relations socio-affectives et des trucs qui vont te permettre de durer 38 matchs, t'as aussi plus de temps et c'est aussi des rendez-vous plus importants sur les matchs à élimination directe. Je pense que Lyon, en championnat, ils auraient joué comme d'habitude et je pense qu'ils auraient fait... ils auraient mieux fait, en tout cas, ils auraient été plus dominateurs parce qu'ils auraient fait comme d'habitude. Et là, c'est en gros, là, j'ai l'impression que sur le papier, c'était peut-être très intelligent ce qu'il a fait, mais au final, il perturbe les repères des joueurs, et le gain qu'il pouvait y avoir sur le fait d'appuyer sur les faiblesses adverses et de, en gros, maximiser tes forces n'était pas suffisant, parce que ça doit être interprété par les joueurs, et les joueurs ont plus perdu dans les habitudes et dans les relations qu'ils peuvent avoir entre eux.
D'ailleurs, sur la période où City redevient normal, entre guillemets, Florent, c'est là que les effets Eagles s'envolent pour City. Alors, il s'envole aussi pour Lyon parce que City est mené, il y a ces deux occasions pour Dembélé qui deviennent des buts. Mais offensivement, c'est là, ça va être la période faste de City qui, malheureusement, est résumée par l'occasion énorme de Sterling qui est complètement ratée. Il avait, contre Tottenham l'an dernier, marqué le quasi-but de la victoire annulé par la VAR. Là, il n'a pas marqué le but qui aurait été celui du... Je ne sais plus si c'est 2-2 ou 2-1. Je crois que c'est 2-2.
Quand 2-2, il... ouais. C'était l'égalisation pour lui. Ouais, bah, ouais, sur les, à partir du moment où Mahrez entre en jeu à la 56e minute, en termes de tir, on est à 13-4 en faveur de l'OL, et en termes de en faveur de Manchester City, pardon. Et en termes de passes, on est à 250 passes côté les Manchester City et 70 passes côté Lyonnais. Sur les 55 minutes précédentes, en termes de tir, on est sur du 5-3. En faveur de Manchester City, et dont deux occasions comptées comme des grosses occasions, c'est celle de Sterling juste avant la mi-temps sur l'extérieur de De Bruyne, mais elle est compliquée à mon sens. Je trouve Kopta est un petit peu gentil de donner une grosse occasion là-dessus, ou méchant pour dire que Sterling a raté une big chance en ratant ça. Et il y a celle de Gundogan aussi à la 30e minute, où quand Lopez lui se jette sur lui pour sortir le ballon. Donc ce sont deux grosses occasions a priori, mais qui sont à mon sens beaucoup moins franches que à la fois la reprise de volée de Gabriel Jesus qui est tout seul au deuxième poteau sur le service de Sterling, et ensuite évidemment tu t'en as parlé, l'énorme raté de Sterling seul dans les 6 mètres et qui la met au-dessus. Donc oui, il y a un vrai avant-après cette 56e minute, mais je rejoins là encore ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est 56 minutes trop tard, quasiment, et j'ai du mal à qualifier en fait d'intelligent un plan de jeu, enfin, de dire c'est sans doute intelligent ce qu'il a fait, quand tu vois que globalement, ça n'a pas fonctionné, et deux, dès le départ, tu pouvais quand même te poser des questions sur... on est Manchester City, on affronte l'Olympique Lyonnais qui vient de passer 90 minutes quasiment en bloc bas face à la Juve, où ils avaient quasiment rien eu sur le match à Turin. Et tu te retrouves face à cette équipe-là, et tu alignes une ligne de 5, alors que défensivement, alors que tu as... Enfin, déjà ça, pour moi, t'envoies un message à l'adversaire et tu dis... Enfin, c'est... Disons que, à mon sens, il y a une vraie dissonance cognitive qui peut se créer chez les joueurs quand les mecs se sentent peut-être, on est Manchester City, on affronte Lyon, on est deuxième de première ligue, ils sont septième de Ligue 1, on va jouer notre jeu, on va les battre. Et là, tu débarques sur le terrain et finalement, non, tu joues pas ton jeu. Et derrière, tu essaies de masquer tes points faibles, alors que si tu t'appuies sur tes points forts, normalement, tu dois gagner ce match, quoi.
Merci Flo pour ce petit point. Je suis en train de lire en même temps sur Twitter un journaliste de sport, le journal catalan, qui annonce que Thierry Henry pourrait succéder à Quique Setién. Qu'il est parmi les cibles potentielles. Donc ce club est complètement en train de vriller. Le mec est arrivé à l'Impact Montréal il y a 3 mois après un échec à Monaco. Bon, c'est pas le seul qui a échoué à Monaco récemment, mais ce foot part en sucette dans pas mal de clubs.
En tout cas, je suis très content qu'on fasse une quotidienne pour narrer tout ça, parce que si on avait fait un épisode à la fin des quarts, je sais pas par quel bout on aurait pris le truc, mais ça aurait été assez compliqué de trouver un fil conducteur à tout ça.
On va pas reparler des déclats de De Bruyne et Guardiola, Christophe, parce qu'ils ont lâché des déclats assez lunaires après la rencontre. Pour résumer,
je pense qu'ils sont en nervous breakdown.
Ouais.
Je pense qu'ils savent pas ce qu'ils racontent. Bon, De Bruyne, c'est pas la première fois. Mais je pense qu'ils c'est de la façade et qu'eux-mêmes ne croient pas nécessairement dans ce qu'ils disent. Okay. Ça m'empêche pas de mettre 2-3 attaques sur Twitter pour m'occuper, pour faire vivre un peu la soirée, mais c'est vrai que c'est assez spécial.
Hein. Oui, je crois que De Bruyne a dit un truc genre, ouais, l'argent régit le monde et on est obligé de subir cette loi.
Alors c'est peut-être pour le fait qu'il joue la Ligue des Champions après avoir enchaîné sur le championnat, j'imagine que c'est ça. Ouais. Ça pourrait s'entendre, mais ça reste... T'es pas le mieux placé pour le dire, quoi.
Non, mais d'ailleurs... Si Sterling met le 2-2 et qu'il passe derrière, est-ce qu'il le dit, tu vois ? Enfin, est-ce qu'il se plaint ?
Non. J'imagine que non.
Néanmoins, on peut signaler quand même qu'en demi-finale, les équipes qui passent, ce sont les équipes qui n'ont pas joué, Paris et Lyon, et les deux équipes qui ont arrêté il y a quasiment un mois, et après avoir eu un rythme de reprise assez quasiment normal, avec des matchs toutes les semaines et pas des matchs tous les 3 jours.
Ouais,
faut quand même le signaler.
Et des 4 équipes qui sont qualifiées, il n'y en a qu'une seule qui avait encore un 8e retour à jouer, je crois. C'est le Bayern. Et les 3 autres.
Ben non, Lyon.
Ah, il y avait Lyon, si c'est vrai.
Bon, après, les deux, Lyon n'est pas trop sorti de son camp. Et de toute façon, Lyon n'a pas le jeu le plus énergivore du monde. Ça demande beaucoup de concentration. Mais encore là, ce soir, bon, la condition physique joue peut-être sur l'aspect. City n'a peut-être pas pu mettre l'intensité espérée, mais je veux dire pour Lyon, voilà, c'est différent de certains autres matchs. C'est pas comme le Bayern qui a absolument besoin d'énergie pour presser ou autre. Et le Bayern avait joué au petit trou un match qui n'avait pas trop d'enjeux. Donc en plus, c'est pas le truc le plus significatif, je trouve, sur la débauche d'énergie avant de jouer l'écart.
À la mi-temps, il me semble quand même, j'ai ces souvenirs de la mi-temps, du plateau RMC à la mi-temps, RMC Sport, il me semble que Lyon avait quand même couru 5 km de plus que Man City. Donc c'est si t'étends ça sur les 90 minutes, je sais pas si ça a duré après parce que j'ai quitté assez vite au coup de sifflet final pour venir préparer ce podcast. Mais du coup c'est quasiment si t'étends, c'est presque 1 km par joueur à la fin. Et ça fait quand même beaucoup si ça a tenu.
Après t'as couru après le ballon quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que tu vois Paris a moins couru que l'Atalanta par exemple. Mais je vais te chercher les chiffres, discuter de choses et d'autres et puis je vous sors les chiffres.
Mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que City, pour déstabiliser un bloc bas, a beaucoup moins couru que ce qu'ils auraient peut-être dû faire. Parce que forcément, quand tu fais face à une équipe regroupée comme Lyon, il faut quand même faire des appels, quand même pouvoir changer de rythme. Mais c'est vrai que là, on peut en revenir au profil des milieux de terrain qui ont été choisis. Et que Rodrigo Gundogan, en termes de mobilité, forcément, t'es moins servi que quand c'est De Bruyne, quand c'est Bernardo Silva, quand c'est David Silva, quand c'est Foden, qui sont dans cette zone et qui apportent un peu plus dans le dernier tiers.
Ah bah, quasiment le seul joueur de City qui a apporté par son mouvement, c'est Sterling, qui a été le seul, je pense, joueur de City trouvé régulièrement dans le dos de la défense adverse. Je vous annonce une autre info qui tombe en direct. Là, je sais pas si vous l'avez vu sur Facebook, je vous ai envoyé. Seko Fofana, le joueur qu'on avait cité dans le grand jeu du directeur sportif, est annoncé à Lens par l'équipe pour 10 millions d'euros. C'est plutôt une très bonne chose pour la Ligue 1 et pour Lens, mais qui est incompréhensible de la part de pas mal d'autres clubs en Europe. Donc, je le signale.
Messieurs.
Oui.
Non, pardon, je pensais que tu avais fini ta petite tirade, ton petit aparté.
J'allais dire que vous pouvez aller retourner vers l'épisode du directeur sportif de l'été, qui était un épisode numéro 41 de cette saison 6. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Christophe ?
Je veux vous donner les chiffres de course de tous les quarts de finale. Allez. En plus, quelqu'un m'en avait parlé sur Twitter. Je sais que c'est la marotte de certaines personnes en radio ou autre. Je t'avoue que j'ai pas d'avis définitif. Je pense qu'il faut toujours croiser ça aux courses à haute intensité et qu'il faut voir le match parce que il y a des plans de jeu où mécaniquement, si tu cours pas, ça n'ira pas, alors qu'il y en a d'autres où t'as pas besoin de courir. Mais bon, bref, je vous les donne et puis vous en faites ce que vous voulez, mais au moins les gens auront l'info. Sur City, Lyon, City court 105 km, Lyon en court 114.
Ouais, ça s'est maintenu du coup, quasiment.
Sur Atalanta-Paris, l'Atalanta court 108 et Paris 104. Donc du coup, Paris a moins couru que City et l'Atalanta a moins couru que Lyon. Lyon est premier de ce power ranking. Leipzig-Atletico, 115-6 pour Leipzig, 115-9 pour l'Atletico. Donc l'Atletico passe devant, là tu as 215 et 114 pour Lyon.
Mais ce qui colle, je trouve, au fait que ça a sans doute été le match le plus intense et à la fois le plus fort collectivement, enfin le plus structuré collectivement, je trouve, des deux côtés.
D'accord. Et là, c'est le moment où on va rigoler. Barcelone-Bayern. Le Bayern a couru 107 km. Alors, je pense au niveau à haute intensité, ça doit être assez élevé. Mais finalement, à part Paris et Manchester City, jusque-là, personne n'avait couru moins.
Dis-moi que le Barça est en dessous des 100 km.
Et le Barça a couru 98 km.
Ouais. Ouais.
98 km, ça fait 17 de moins que le match Leipzig-Atletico, c'est assez compliqué. Quoi.
Deuxième, en même temps, ils ont arrêté de marcher même. Donc,
Ouais, mais tu vois, il y a des matchs où par exemple Messi marche tout le match et au final tu te rends compte qu'il a quand même fait 7-8 parce que marcher tout le temps pendant 90 minutes, si tu cours un peu, voilà, parfois tu fais plus de distance en marchant tout le temps. D'ailleurs, Kimmich a fait pas mal de matchs après la reprise à 12 km parcourus. Pourtant, il faisait pas tellement de sprint, c'est juste qu'il était tout le temps en mouvement en fait. Mais là, c'est non seulement il n'y a pas eu de course, mais il n'y a même pas eu de... Enfin, il n'y a rien eu, quoi. 98, là, pour le coup, c'est assez étonnant. Je crois que le record de cette saison doit être vers les 120, mais peut-être que je dis n'importe quoi, donc je vais essayer de le vérifier quand même.
Les 120, comme le podcast qui sort la semaine prochaine. Pardon.
C'est ça. Je crois que le Slavia a fait 121, mais peut-être que ma mémoire invente totalement quand j'avais inventé un pari coté à 100 alors que c'était à 30.
En tout cas, c'est rassurant. Peut-être que je dis n'importe quoi, parce que du coup, on se demande pourquoi on t'écoute depuis une heure. Tu vois, c'est le...
Non, parce que justement, ça veut dire que quand je dis... tu vois, j'ai la lucidité de quand je suis pas sûr, je dis que je ne suis pas sûr. Donc les gens prennent ça avec des pincettes et vont peut-être aller checker, vérifier... ces informations-là, et du coup, ils se disent, ah, il y a quand même l'honnêteté, quand il est pas 100% sûr, il met un petit avertissement, tu vois, c'est pas une petite étoile, une petite astérisque où c'est marqué en bas de la page et tu ne le lis pas, quoi. Cette personne est vraiment transparente.
Très bien. Merci, Christophe. Je me fais recadrer par Florent sur Facebook, donc je vais suivre ses consignes. Il me dit qu'il faut faire une projection sur OL Bayern. Et il faut faire une projection sur OL Bayern, c'était prévu, et j'ai même une question de Guillaume Héritier sur Twitter, très grand nom, très grand patronyme, on félicite, qui me demande si Lyon a une petite chance contre le Bayern. C'est vrai qu'on a présenté le Bayern avant le quart contre le Barça comme un ogre, après le quart contre le Barça, pardon, encore comme un ogre. Est-ce que Lyon peut manger cet ogre?
Bah ça, oui, le Bayern reste un ogre pour la demi-finale. Maintenant, après ce qui s'est passé ce soir... Parce qu'en plus, il fallait faire cette projection parce que hier, on avait un petit peu rigolé à l'idée de se projeter sur Bayern-Lyon alors qu'on était déjà dans la réflexion autour de Bayern-Manchester City. Il y a deux choses. C'est que, en effet, le Bayern a montré quelques failles avec sa ligne défensive très très haute face au Barça. Ils ont concédé pas mal de choses dans le premier quart d'heure jusqu'à ce que leur pressing prenne vraiment le dessus sur le Barça et que les buts s'enchaînent. Maintenant, ce que j'ai revu la première mi-temps du match et ce que j'ai remarqué surtout, c'est que lorsque le Bayern évoluait 15 mètres plus bas, en gros, dans sa moitié de terrain avec un bloc bien en place à la française, les Bavarois réussissaient surtout à gratter beaucoup de ballons. Les Bavarois n'ont rien concédé sur ces séquences-là où ils étaient plus bas sur le terrain, et surtout ils étaient capables, en partant de cette séquence assez plus basse, de faire reculer l'adversaire jusqu'au gardien de but pour forcer le dégagement du gardien de but et ensuite récupérer la balle 30 mètres plus haut. Donc il y a cette chose-là qui me fait penser que sur la demi-finale, je serais pas surpris que le Bayern soit moins extrême que face au Barça, parce que Lyon a plus de joueurs susceptibles de leur poser des problèmes dans la profondeur, parce qu'avec Toko Ekambi, avec Cornet, avec Depay, même si Depay n'a pas retrouvé forcément son explosivité, ils ont des joueurs capables de faire des appels en profondeur qui seront plus compliqués à rattraper que Luis Suarez, par exemple. Donc, sur ce point-là, Je pense que le Bayern, déjà, les failles qu'on a vues contre le Barça, en tout cas, ils sont capables de les corriger d'ici le match face à Lyon. Donc, il faudra trouver autre chose. Après, offensivement, bah, le côté, on a évoqué leur capacité à bien couvrir la surface, à bien protéger la zone dans l'axe du but de Lopez. Je pense qu'ils vont se retrouver face à un chantier encore plus énorme pour protéger cette surface. Parce que quand City fait des centres en retrait la plupart du temps et envoie très peu de centres aériens, sauf vers le deuxième poteau quand ils en ont l'occasion, mais c'est assez rare. Là, le Bayern, ils ont une variété pour mettre la balle dans la boîte en partant des côtés qui est beaucoup plus grande. Donc, ça va être un chantier, évidemment, beaucoup plus important. Donc là, j'ai déjà évoqué deux points qui ne mettent pas forcément en confiance. Mais c'est vrai que le Bayern, par rapport à ce qu'ils ont montré face au Barça, ils ont en effet montré des faiblesses. Mais je pense que ces faiblesses ne sont pas structurelles et peuvent se régler d'ici trois jours. Donc, bon, à voir. Hein.
Christophe, vu qu'on est très souvent coupable de scepticisme, notamment concernant les clubs français, écris-moi un scénario qui mène Lyon jusqu'à la finale de la Ligue des Champions.
Déjà, je vais te dire que le Slavia Prague avait couru 127 km un match de la phase de poule.
Ils ont bien dû dormir.
Bon, en même temps, avec leur bloc à la médiane, et les sous-secs et compagnie qui courent non-stop, c'est pas très étonnant, mais voilà.
Ça avait été quoi le score de ce match où ils avaient fait 127 km?
Bah écoute, je ne sais pas, parce que du coup, je regarde les fiches et à chaque fois, t'as le score de kilomètres parcourus par équipe et t'as le meilleur de la saison. Et donc à chaque fois, le meilleur de la saison, c'est Slavia Prague 127, mais du coup, il faudrait que je refasse toutes les fiches. Je dirais que c'est contre l'Inter, mais je suis pas, c'est vraiment du bluff, en fait, je n'en sais rien. Mais j'ai envie de penser que c'est contre l'Inter, parce que vu le profil des deux équipes. Mais je peux vérifier ça tout à l'heure si tu veux. Sinon, concernant cette demi-finale, ce match-là du soir nous a rappelé que tout est possible dans le football et qu'il faut, après avoir pas mal prédit, senti ce qui allait se passer, ben, gros retour sur terre, notamment pour moi.
Ouais, c'est sûr.
Pour tout le monde, ouais. Voilà, il faut le dire. Et ça prouve aussi que tu peux mettre. Il y avait quand même une forme de leçon tactique donnée à Guardiola par Zidane lors du match précédent. Et là, Guardiola a pris une leçon tactique. Alors, c'est plus en faisant n'importe quoi que Rudy Garcia qui a fait un truc incroyable. Mais au final, le rapport de force tactique a penché en faveur de l'adversaire. Donc, là-dessus, rien ne garantit que parce que Flick a été bien meilleur que l'a été Setién sur le match précédent et que Flick a quand même assez peu, si vraiment tu fais le truc tactico-tactique, Flick a assez peu affronté de plans qui étaient meilleurs que le sien, à part peut-être le 0-0, je crois qu'il doit être le seul match non gagné depuis janvier par le Bayern contre Leipzig, où de mémoire la deuxième période, le plan Nagelsmann met vraiment ce Bayern en difficulté. Mais sinon, le Bayern n'a jamais sous-joué et ne s'est jamais mis en position de vraiment ne pas exploiter ses talents et d'ouvrir des portes à l'adversaire, même si des fois sur la fin de saison c'était un petit peu moins impressionnant, mais le Bayern quand même continue à faire le job. Donc voilà, je vais pas. La logique voudrait quand même que Lyon ait énormément de mal face à l'équipe du Bayern, qui est l'une des plus grosses machines vues en Ligue des Champions depuis pas mal de temps. Si cette équipe la gagne, je pense qu'elle sera quelque part avec le Bayern 2013, qui en plus était surtout là parce que physiquement, c'était même à se poser des questions de savoir comment c'était possible de faire ça, mais qui n'était pas non plus totalement souveraine. Hein. Un quart d'heure de la fin, au final, il y a encore un but partout face à Dortmund. Donc voilà, et puis avec le Barça de Guardiola qui bat Manchester en finale, même celui-là a eu quand même, il n'y a pas non plus 5-0 à tout le monde, et aussi avec la deuxième Ligue des Champions du Real de Zidane qui gagne toutes ces rencontres de 1-2, 3-0 sans trop de problèmes, sans jamais avoir besoin de réussite ou autre pour passer les tours. Mais après, Lyon a donc cette capacité de tout le groupe à maximiser ses forces sur le bon moment. Ça, c'est très intéressant. Il y a quand même un truc qui se dégage de cette équipe qui est assez irrationnel on fait pas d'erreur. Franchement, c'est le Sterling qui tire au-dessus. Je vous envoie, mais du coup, je vous envoie, il y aura 3-1 et je vois pas le troisième but parce que je suis en train de taper qu'il y aura 3-1 parce que c'est écrit que ça va se passer comme ça, à la fois pour l'histoire de Guardiola récente en Ligue des Champions et pour celle de Lyon où pour le coup, ça a tendance quand même plutôt à bien tourner depuis quelques temps. Après, il y a aussi l'exemple Puel parce que les deux demi-finales Ligue des Champions de Lyon, ça restera à chaque fois avec deux entraîneurs très critiqués, très discutés, qui auront fait des choses avant et qui seront tous les deux passés par Lille avec succès, mais qui n'auront pas un parcours lyonnais très très calme. Mais la demi-finale de Lyon contre le Bayern, au bout d'un moment, tu avais fini par heurter le mur de l'échec parce que t'étais arrivé face à une équipe qui t'exposait à tes limites. Et même cette équipe-là était passée face à Bordeaux de manière un peu ric-rac. Enfin, voilà. Je pense qu'à un moment, tu vas quand même te heurter à ton seuil de compétence. Mais si tu défends bien ta surface et si Aouar ressort tous les ballons, après, il y a quand même cette course de vitesse qui peut avoir lieu entre ton attaque et la défense adverse, qui doit te donner quelques munitions. Mais encore une fois, si Flick fait pas le même plan que sur le premier quart d'heure face au Barça, où c'est un peu n'importe quoi sur les espaces laissés, et que c'est plutôt les 50 minutes suivantes ou les 60 minutes suivantes et sous la deuxième période où le Bayern fait d'énormes différences tout en réussissant à rester équilibré, je pense que Lyon ne va jamais voir la balle parce que tu pourras jamais ressortir de la pression et tu devras te contenter de la balancer assez loin.
Merci Christophe pour ce petit scénario. On va terminer notre page Ligue des Champions par votre 11 des quarts de finale. Vous avez d'ailleurs envoyé deux suggestions sur Facebook pendant qu'on discutait et c'est quasiment la même équipe. Donc je vais laisser Florent, qui vient d'écouter religieusement Christophe, nous annoncer d'abord le gardien et la ligne défensive puisque vous êtes unanime.
Ouais, alors le gardien, bah, on part sur Anthony Lopez, simplement pour les arrêts déterminants qu'il a eu à faire. On en a parlé face à Sterling, face à Gundogan, notamment quelques sorties aériennes aussi qui ont soulagé sa défense, quelques arrêts aussi sur les coups de pied arrêtés de De Bruyne. Donc voilà un match plein de sa part, après un match à Turin d'ailleurs où il n'avait pas non plus été impérial, je pense notamment à sa sortie devant Bernardeschi où il lui ouvre le chemin du but en anticipant beaucoup trop le centre en retrait. Donc voilà, un bon match de Lopez et c'est vrai que quand tu vois les autres qualifiés, j'ai pensé à Keylor Navas, mais il a fait les arrêts qu'il avait à faire, mais il en avait moins à faire, je pense, sur ce match face à l'Atalanta. Donc voilà, Anthony Lopez pour les buts. Et ensuite, pour la ligne défensive, alors Upamecano, je pense que ça coule de source après sa performance face à l'Atlético Madrid. Il a bouffé Diego Costa, il a été un très bon numéro 6, même sur les séquences de sortie de balle de Leipzig. Donc voilà, Upamecano en défense, que j'ai associé à Kimpembe, qui fait un match très très plein face à l'Atalanta, où il lui aussi bouffe son vis-à-vis Zapata, à tel point que Zapata a quitté sa zone pour aller se frotter à Thiago Silva ensuite. Par-dessus ça, il a donné quelques bonnes relances, il a distribué quelques bons ballons. Il y a cette action-là où il y a le contre où il est un peu malheureux sur le but de l'Atalanta, mais je pense que ça ternit pas sa prestation d'ensemble. Et ensuite, pour les latéraux, il n'y a aucune surprise. Ce sont les deux latéraux du Bayern, Alphonso Davies et Kimmich, qui finissent tous les deux, je crois, avec des passes décisives. Kimmich termine avec un but, d'ailleurs, sur passe décisive d'Alphonso Davies. Mais il me semble aussi qu'il met une passe D pour Thomas Müller pendant le match. C'est en effet ça, il met une passe D pour Thomas Müller.
Sur un centre ouais. Très, très fort.
Centre tendu devant le but. Mais voilà, les deux ont fait... les prestats qu'ils avaient l'habitude de faire en championnat, ils les ont refait face au Barça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de concurrence, que ce soit à Lyon ce soir, malgré le but de Cornet. On ne va pas non plus aller comparer sa perf à celle d'Alphonso Davies, mais il peut y avoir une mention honorable pour lui. Et côté droit, là j'ai les qualifiés en tête, mais il n'y en a aucun qui ressort. Leimer avait un rôle, a bien tenu son rôle avec Leipzig, mais il avait un rôle hybride entre le piston et le milieu axial. Or là, on cherche vraiment un latéral droit pour le système que Christophe va dévoiler ensuite.
Oui, le système, les trois milieux, Christophe, je te laisse choisir, parce qu'il y avait débat, vous n'avez pas vraiment débattu, mais il y avait des suggestions de Florent supplémentaires dans le milieu à trois. Je te laisse choisir qui sont les trois nommés et comment tu les articules.
Oui, je viens tout juste de retomber sur la page après avoir, à cause de toi, ouvert six onglets pour voir quel était le match du Slavia Prague. Où ils ont fait leur record, c'était face à Dortmund, mais ils étaient à plus de 120 sur tous les matchs. Mon milieu à 3, alors les suggestions s'entendent, hein, je vais juste rester sur mon idée parce que j'ai pas envie de changer. C'était Sabitzer, Aouar, Goretzka. Sabitzer qui était vraiment le... Je pense qu'en fait, sa présence se justifie peut-être plus que celle de Thiago, parce que Sabitzer avait beaucoup moins de soutien, en fait, finalement, et que Thiago Goretzka, en fait, les deux rayonnaient. Mais c'est difficile d'imaginer que l'un aurait pu être aussi bon si l'autre, je vais pas dire qu'il s'était caché, mais voilà. Alors un Campbell peut s'entendre, mais en fait je suis sur l'idée que bah c'est il est presque trop 6 en fait dans mon système et j'ai pas nécessairement besoin de lui pour décrocher, prendre des ballons. Donc Goretzka qui fait notamment une super passe décisive, mais qui en plus se trouve un peu plus d'impact physique et peut-être encore un peu plus chiant au contre-pressing que l'était Thiago, qui était plus là, enfin qui était un petit peu plus sollicité sur les premières relances, mais sans ballon, qui était un peu moins visible. Et donc Goretzka fait quand même cette super passe décisive en un temps qui offre un but. À voir, on en a déjà parlé ce soir, c'est un peu le même délire que Sabitzer, c'est-à-dire que il ressort d'autant plus qu'il n'est pas nécessairement aidé et que donc du coup il a dû assumer des responsabilités très importantes, alors beaucoup plus pour les sorties de balles et pour lancer des choses, alors que Sabitzer lui s'était créé des décalages. Mais voilà, le fait on peut envisager Campbell si jamais tu as besoin d'un 6 relanceur pour sortir de la pression, parce qu'il était vraiment très reculé. Moi qui n'ai pas toujours été séduit par ce joueur qui au départ était plutôt sur un profil plus offensif, qui a reculé avec le temps et qui a souvent été blessé, pas toujours régulier, là il était vraiment très bon. Et donc Thiago peut aussi entrer dans la discussion, ça dépend comment t'animes, mais j'aime bien l'idée aussi de ressortir 3 clubs différents plutôt que de s'amuser à mettre 11 joueurs du Bayern.
Oui, et puis Sabitzer a quand même eu un match plus difficile à jouer que Thiago.
Oui, parce qu'il avait des gens en face de lui.
Ça mérite de passer un peu devant. Je redonne la parole à Florent pour la ligne offensive. Il y a les 3 joueurs restants là qui s'imposent assez naturellement, même si sur le poste de 9, c'est un peu par défaut.
Ouais, un peu par défaut pour Lewandowski qui met son petit but, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus eu de grandes performances d'avançante sur ces quarts de finale.
Dembélé rentre et met doublé, et puis Mbappé change quand même le match quand il rentre, mais ils ont 30 minutes dans les pieds.
Ouais, voilà, on les fait entrer en jeu si tu veux, on peut les faire entrer en jeu. On peut aussi faire entrer en jeu Reine Adélaïde, qu'on n'a pas évoqué, qui fait la meilleure entrée pour un mec qui joue 3 minutes, enfin un peu plus avec les arrêts de jeu, mais puisqu'il touche 2 ballons et le premier ballon touché, c'est le fait de gratter la balle dans le camp adverse et ensuite de se retourner et de décaler à War sur le troisième but. Donc ouais, petite rentrée sympathique de sa part. Peut-être qu'on le verra plus face au Bayern pour sortir de la pression, qui sait. Mais oui, bah devant, en fait, il n'y a pas vraiment de surprise. Donc Lewandowski à la pointe de l'attaque, parce que bah, si tu compares avec les autres 9, on va passer sous silence Icardi, on va pas évoquer Poulsen. Et côté lyonnais, bah, on vient d'évoquer le cas de Dembélé. Par contre, à ses côtés, Thomas Müller, c'est l'évidence. Je pense que en termes de performance, s'il faut dégager 4 MVP sur ces quarts de finale, dans l'ordre, on a Neymar, ensuite on a Upamecano, derrière on a Thomas Müller et ce soir on a Oussem Aouar. Donc Thomas Müller forcément, et du coup bah, le dernier pour compléter l'équipe, dans ce qui ressemblerait à un 4-3-1-2 losange, on mettrait Neymar en numéro 10 derrière les deux attaquants du Bayern Munich. Et je pense que Neymar, je renvoie les gens vers le podcast sur Atalanta PSG, s'ils ne l'ont pas déjà écouté, mais on a déjà tout dit sur sa performance. Certes, il craque beaucoup devant le but et il rate pas mal de choses dans les 30 derniers mètres, mais il a fait tellement de choses dans les 2 premiers tiers du terrain, parce que le PSG avait surtout besoin de lui dans ces zones-là, que le fait que Paris passe, on lui passe évidemment le fait d'avoir manqué des choses devant le but, parce que le reste de sa performance est à un niveau difficile à imaginer pour un joueur, et je pense qu'il n'y a que Messi qui a sorti les performances du genre sur les 10 dernières années.
Oui, parce que Aouar a fait un très très gros match, on a l'impression qu'il perdait pas un ballon et qu'il pouvait éliminer tout le monde. Il a réussi 4 dribbles, Neymar en a réussi 16. Donc c'est un chiffre qu'il faut recontextualiser, parce que ça semble fou. Alors Lyon a eu moins le ballon que City, et Paris surtout, donc forcément il faut ça aussi le dire. Mais 16 dribbles, bon, ça, quand on voit qu'on s'excite parfois pour des 4-5, ça paraît complètement fou. Voilà pour notre 11 des quarts de finale. On n'en refera pas forcément pour les demi, parce qu'il n'y aura que 2 vainqueurs, donc ce serait juste mélanger 2 équipes, à moins qu'il y ait des grosses performances chez les perdants. Mais...
on fera peut-être un 11 du Final 8 à la fin. Ça nous permettra peut-être de trancher entre le milieu de terrain et les Thiago, les Campbell qui n'ont pas fait le cut pour cette première version, on va dire.
En effet, on pourra faire ça. Voilà pour notre page éditoriale. On va passer au pari avec notre partenaire PMU.fr.
PMU vous présente la séquence prono.
Les paris avec PMU.fr. où Daguet et Norbert ont déçu dans le dernier épisode, messieurs. Vous n'avez pas passé de pari sur cette rencontre Lyon-Manchester City. Alors, on ne s'attendait pas forcément à un résultat 3-1 pour Lyon. Il vous reste néanmoins des paris sur l'Europa League, sur les matchs qui vont venir dans quelques jours. On n'aura pas forcément l'occasion de débriefer, on s'en excuse. On avait, je crois que ça fait 4 épisodes qu'on dit qu'on va parler de Ligue Europa et qu'on ne le fait pas. Mais bon, les matchs de Ligue des Champions sont tellement captivants et riches en matière que ce n'est pas facile d'y consacrer du temps. Qu'est-ce que vous allez nous proposer comme pari sur cet épisode? Puis on va parler encore Ligue des Champions et reparler Lyon dans un premier temps. Et puis ensuite, on parlera Ligue 1, puisque la Ligue 1 reprend dans 5 jours. On n'est pas du tout prêt pour cette reprise Ligue 1. On est complètement en mode Ligue des Champions. Mais elle va reprendre d'abord la Ligue des Champions. Christophe Daguet, ton premier pari, c'est sur Lyon-Bayern.
Oui, et honnêtement, j'ai un peu de mal à m'enflammer sur mes propres choix. Parce que je suis tiraillé entre deux idées extrêmes. Alors, ça se trouve, ça sera ni l'un ni l'autre. Mais le match de Lyon ce soir me confirme dans ces deux extrêmes, puisqu'il n'y a pas eu, vraiment de juste milieu dans cette rencontre. Peut-être entre la 55e et la 60e, mais voilà. Mon pari, c'est que les deux équipes marquent deux buts ou plus. C'est coté à 5. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 2-2, il peut y avoir 8-8, il peut y avoir 9-2. Il peut avoir 6-6, enfin, vous avez compris l'idée. Alors pourquoi, pour tout dire, j'hésitais avec le 0-0 à la mi-temps, parce qu'en fait je ne sais pas trop comment le Bayern va approcher ça. C'est un truc que j'aurais pu évoquer tout à l'heure, mais je gardais la dernière partie de mon analyse pour justement étayer mon pari. En fait, je me pose la question de savoir, est-ce que le Bayern va être échaudé d'avoir vu Lyon attaquer très bien la profondeur, et du coup va se refuser à trop presser, va faire... Alors, plus comme la deuxième période, mais peut-être encore de manière plus neutre, parce qu'en deuxième période, le Bayern presse de manière équilibrée, mais le Bayern est devant au score. Donc peut-être que s'ils n'étaient pas devant au score, ils auraient pressé un petit peu moins. Là, ils pouvaient se permettre de prendre des risques, parce que bon, tu pouvais prendre un but, il n'y avait pas de grand risque. Donc je ne sais pas si le Bayern ne risque pas d'enterrer le match, entre guillemets, pendant un certain temps avant d'accélérer. Mais je me suis dit, finalement, si, et même si c'est le cas, si Lyon mène 1-0... le Bayern va foutre un bordel et du coup ça peut partir dans tous les sens. En fait, limite l'interrogation que j'ai, c'est est-ce que Lyon va marquer ce fameux deuxième but, parce que je pense que le Bayern va en prendre un et va en mettre plus que deux. Maintenant, est-ce que, tu vois, même si ça s'emballe tard, je pense que ça va s'emballer, est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça termine à 5-1 par exemple, ou juste à 2-1 et que le Bayern fasse que de la possession défensive pour pas prendre de risques, pour ouvrir d'espace? Vraie question, mais je pars sur l'idée, en plus à 5 c'est pas mal, que bah, finalement ces matchs sont assez offensifs, et tu vois, même le Barça qui prend une pile absolue, bah, ce pari, les deux équipes marquent de but ou plus, il serait passé. Donc je me dis que dans l'absolu, et City, ça aurait failli passer aussi si Sterling s'avait cadré à 3 mètres du but vide. Donc comme c'est assez offensif, et que voilà, pas mal d'équipes choisissent la solution offensive, je pars sur ce pari à 5, 2 buts ou plus, qui peut-être me consoler du non-penalty sifflé à Lyon avec la faute de Walker, qui aurait pu me faire rentrer une cote ce soir.
Oui, puis hier, c'est vrai qu'on notait qu'il n'y avait pas eu un match à moins de 3 buts depuis le début du Final 8, et ben, ça s'est confirmé avec ce Lyon-Manchester City, qui finit à 4 buts. Florent, Norbert, ton premier pari, donc ton pari sur Lyon-Bayern, peut se recouper avec celui de Christophe, mais il te rapportera moins.
Oui, il peut totalement se recouper avec celui de Christophe, puisque moi je pars simplement sur une cote à 2. Je garde mes énormes cotes pour la fin, je pense. Je verrai. Là, j'en ai pas trouvé sur ce match-là. Et c'est simplement le fait qu'il y aura 4 buts ou plus dans ce match. Parce que, en effet, si le Bayern aborde le match comme face au Barça, bah, ils risquent d'en prendre au moins un, mais je me dis aussi qu'ils sont capables, s'ils abordent le match différemment, ils sont peut-être aussi capables d'en mettre 4. En additionnant tout ça et en reprenant une large partie de l'argumentaire de Christophe, je me dis que cette cote OL Bayern 4 buts ou plus dans le match, ça me paraît plutôt probable et aisé à rentrer. Donc, en même temps, la cote est qu'à 2, donc c'est vrai que généralement, c'est ça qui est quand même assez fort. Donc ce pari-là, c'est combien de buts y aura-t-il dans le match? C'est 0. Non, c'est 0 ou 1, 2 ou 3 et 4 buts ou plus. Et généralement, évidemment, les cotes les plus faibles, enfin la cote la plus faible, c'est 4 buts ou plus. Et là, de manière assez exceptionnelle, la cote la plus élevée, pardon, c'est 4 buts ou plus. Et là, la cote la plus faible. Je vais y arriver, il est tard, il est 1h30. Là, ça,
non, mais en plus, le truc de la cote la plus élevée et la plus faible est toujours trompeur, parce que tu sais pas ce que tu dois appeler faible et élevé, tu vois.
C'est vrai, c'est vrai. Merci d'essayer de me sauver. J'ai sorti les rames. Mais voilà, de manière assez exceptionnelle, là, la cote qui normalement est la plus faible, non, est la plus élevée.
Et la ça plus... peut devenir un gag.
Ouais,
ça
là, c'est un peu... ça va plus du tout.
C'est un moment de machine.
Vous avez compris le pari, c'est OL Bayern, 4 buts ou plus dans le match, la cote est à 2. Voilà.
Le pire, c'est que ça apportait rien de dire ça. Genre, ça complétait un petit peu ton analyse, mais dans l'absolu, t'aurais pu faire 100. Quoi. Là, t'as tenté un gris-gris, t'es tombé sur le ballon. Quoi. C'est
Koji Nakata fait un podcast. Quoi.
Non, c'est la fin aussi de 4 soirs de boulot, hein. Il faut préciser pour nous, même si c'est un plaisir. Mais on a fini les soirées, notamment Flo qui hier a fait le montage vers 3h30 du matin. Donc, pas toujours facile.
Après, il faut réussir à trouver le sommeil après toute cette mobilisation de notre faible intellect, cette vivacité, il faut réussir à retomber.
En effet, en plus, demain nous attend une grande chose. Christophe, j'en parlerai tout à l'heure avec quelqu'un qui nous a envoyé un tweet pas du tout foot et vraiment référencé à une de nos émissions préférées. Christophe, ton deuxième pari, Marseille-Saint-Etienne, la Ligue 1 reprend vendredi 21 août. Et c'est ton premier pari, enfin ton deuxième pari, pardon, mais ton premier pari de la saison 6, on ne sait même plus si on a la saison 6, saison 7, enfin c'est le retour de la Ligue 1.
C'est le retour de la Ligue 1, et mon pari c'est 0-0 à la mi-temps, parce que je ne suis pas du tout hypé par ce retour de la Ligue 1, et que je ne sais pas du tout dans quelle direction ça va partir, et je me dis peut-être les joueurs ne seront pas super motivés aussi, et que 0-0 à la mi-temps... ça serait assez Ligue 1 pour une reprise. Alors, ça ne veut pas dire que... Enfin, tu vois, 0-0 à la mi-temps, ce n'est pas non plus la fin du monde. Alors que je revois cette magnifique volée de Jesus qui peut juste contrôler et frapper dans le but au lieu de faire n'importe quoi. Mais je me dis, ça peut s'emballer ensuite. Hein, mais en plus, bon, au-delà du côté, les équipes doivent retrouver leurs repères, machin. Bon, c'est, l'adversaire n'était pas facilement abordable, mais ce que j'ai vu de Marseille face au Bayern et sur un ou deux autres matchs captés, je crois qu'ils avaient joué des Slovaques avec un acronyme un peu bizarre en nom de club, m'a pas tellement rassuré sur le potentiel offensif de cette équipe, en tout cas m'a pas convaincu sur l'idée que Villas-Boas allait faire ce qu'il faisait dans ses jeunes années, même s'il est encore très jeune, du truc très offensif avec du pressing sans... D'ailleurs, ce qui rappelle un peu ce que faisait le Bayern sur le début de match hier, le fait de presser sans toujours cadrer le porteur avec une ligne défensive à la médiane, il faisait parfois ça en première ligue, c'était rigolo. Donc je pense que ça va rester quand même Marseille une équipe assez prudente qui va espérer que quelques joueurs type Payet, type Thauvin de retour fassent des différences, mais sans forcément trop s'exposer, en gardant sa base défensive assez solide. J'imagine pas le match trop s'emballer, parce que j'ai vu Saint-Etienne aussi face à Paris, alors il aurait pu avoir des buts, mais ça incitait pas non plus à visualiser un truc ultra romantique sur des grandes envolées offensives. Et enfin, j'aime bien l'idée que Jesse Moulin fasse un bon match sur son premier de titulaire officiel de nouvelle saison.
La moule.
Tandis que Larruf, à ne pas confondre avec Nicolas Saint-Ruf, tandis que Larruf fait un concours de communiqué envers son club pour savoir s'il accepte ou non d'être numéro 2. Un fil rouge incroyable. J'espère que Jesse Moulin va faire un bon match, parce que s'il se trouve complètement, j'ai peur que ça soit un peu n'importe quoi à Saint-Etienne et qu'on se pose la question de pourquoi est-ce qu'il a pris la place de Ruffier. Donc du coup, un peu aussi pour Jesse, qui a l'air d'être un joyeux drill, je parie le 0-0 à la mi-temps à 2,25.
Merci Christophe, c'est au tour de Florent de conclure cette séquence Paris et presque ce podcast avec son pari sur Marseille-Saint-Etienne.
Oui, un pari que je viens de changer pour être après ma cote à 2. J'étais parti sur le fait que Saint-Etienne remporterait une mi-temps dans le match. Alors, il n'y a pas vraiment de raison. Je sais juste que côté stéphanois, il y a un attaquant qui a fait une belle prépa. C'est celui, le dénommé Crasso, dont j'ai perdu le prénom.
Jean-Philippe, il me semble.
Jean-Philippe, voilà. Et c'est vrai que le match des stéphanois face au PSG, bon, qui remonte un petit peu maintenant, mais je les avais trouvés plutôt très intéressants sur certaines séquences. Alors, ils avaient aussi mis quelques coups aux Parisiens, et on avait surtout retenu ça après le match. Mais il y avait des séquences, des sorties de balles, des contre-attaques qui étaient plutôt bien menées, et Saint-Etienne aurait tout à fait pu marquer dans ce match aussi. Navas avait sorti quelques arrêts. Et je me dis que l'upset de la première journée face à l'OM au Vélodrome, c'est quelque chose qui peut peut-être arriver en faveur des Stéphanois, parce qu'en plus, Marseille n'a pas forcément aujourd'hui enfin, c'est pas forcément renforcé par rapport à la saison dernière. C'était pas forcément non plus une équipe très expansive offensivement. Et je me dis que avec pour peu que les Stéphanois aient un peu plus de rythme de la compétition, ils seraient capables d'aller chercher quelque chose. Alors je vais pas jouer la victoire sèche, mais je vais jouer victoire de Saint-Étienne remboursée si égalité. Et la cote est à 3,15. Donc voilà, le petit upset pour débuter la saison, c'est un scénario que j'envisage, surtout que Saint-Étienne m'avait fait plutôt bonne impression face au PSG dans un registre réactif qu'il pourrait retrouver face à l'OM justement, et en plus avec quelques individualités qui étaient déjà assez tranchantes à ce moment-là de la préparation, donc je me dis qu'ils le sont peut-être encore aujourd'hui. Des Bouanga, Crasso qui était entré en jeu, le jeune Neyou aussi, je crois, Raphaël, qui avait été plutôt intéressant, même s'il n'a pas forcément confirmé après. Mais voilà, Fofana qui avait été très fort derrière aussi. Donc voilà, après je dis ça surtout parce que j'ai vu Saint-Étienne en match officiel il y a 3 semaines et j'ai pas encore vu l'OM hors de son match face au Bayern. Donc il y a aussi ça qui est.
Un match où il est possible que les deux équipes soient réactives et que les deux finissent à 34% de possession. Donc ce qui pourrait aider le pari de Christophe du 0-0 à la mi-temps. On verra qui choisira de laisser le ballon à l'autre. On va finir par un tweet de Patrick Fay, qui est aussi appelé Andrew. Je comprends pas bien comment les gens ont plusieurs prénoms sur Twitter, ils mettent un truc qui n'a rien à voir avec leur pseudo, mais qui nous dit, et ça c'est un signe qu'il nous suit, la LFP a décalé les coupes au vendredi pour préserver Fort Boyard, dommage que l'UFA ne fasse pas pareil. Et c'est vrai qu'on a raté ce soir, Christophe et Flo, l'épisode de Fort Boyard du samedi soir, même si le casting, je crois que Flo t'a aperçu quelques images, Christophe, on a lu le casting, ça promet pas grand chose.
Non, le casting vaut le 11 de départ de Guardiola ce soir, oui. On va dire ça.
C'est, quel est le casting, juste parce que en fait, je n'ai entendu que ce que m'en a dit Florent, mais j'ai pas tous les humains qui le composent.
Alors, il y a l'immense Alex Good.
D'accord.
La fameuse équipe avec Joyce Jonathan.
Qui avait fait partie de l'équipe qui avait jamais réussi à trouver ni le mot, ni même, enfin, ils avaient rien réussi.
Ils ont pas eu le temps d'essayer de trouver le mot, mais de toute façon, ils avaient pas le bon mot. Oui. Alors qu'ils avaient genre 9 indices et 2 prisonniers.
Sur un cri de Joyce Jonathan qui crie, mais c'est poste, et c'était pas du tout poste, c'était carnet. Merci Jerry, performance, je pense, je sais pas si ce serait le match de qui, la performance de Joyce Jonathan dans Fort Boyard. S'il y avait un match.
C'est Marcelo face à l'Allemagne.
On allait dire Varane face à Man City aussi.
Ouais. Pierissa face à la France.
Ouais, puis
là, on a l'idée, quoi, je crois.
Il faut trouver aussi un joueur avec une certaine mollesse, tu vois. C'est genre un très mauvais match de David Luiz, un peu. C'est un peu un truc comme ça. Ou les matchs de Sami Traoré quand il faisait un peu n'importe quoi.
Après, on n'en a pas parlé ce soir, mais Ederson, exceptionnel. Hein.
Ah oui.
C'est-à-dire, j'ai connu des joueurs qui avaient parié contre leur équipe, qui montraient un peu plus d'abnégation à se relever et à essayer de plonger, quoi.
Parle pas de Toulon comme ça et de Jura Sud, ce match mythique qui avait marqué le web français. Et ouais, donc c'est Alex Good, c'est les Bodins ou Bodins
que j'ai découvert la semaine dernière.
Qui étaient avant
les cousins de Louis Bodin et qui m'ont pas fait une belle impression.
T'avais aussi découvert Megagaff et Francis Lalanne en chanteur dans Fort Boyard. Florent avait découvert ça aussi. Et donc, il y a un Laurent Mestré que je ne connais pas. Je ne sais pas qui est cette personne. Et d'autres gens que j'ai oubliés aussi. Franchement, la personne que je connais le plus dans le casting, c'est Alex Good. Qui s'était plutôt bien défendu d'ailleurs dans l'épisode qu'on avait vu il y a quelques années de Fort Boyard.
Par rapport à Jonathan, il s'était forcément bien défendu. Oui.
C'était vraiment, vraiment, il y avait un écart, mais entre Jonathan et tous les autres participants de Fort Boyard.
Dans l'histoire de Fort Boyard.
Oui, non, mais je compte même la boule, je compte Big Boo, je compte Little Boo, je compte tout le monde, je compte le maître du temps qui n'a jamais gagné un seul duel.
Tu sais que là tu m'embêtes parce que t'as commencé à parler de ça et j'ai envie de faire un résumé de 10 minutes pour les gens qui n'auront pas envie de s'infliger ça, alors ça se trouve sur YouTube, mais qui n'auront pas envie de s'infliger, j'ai envie de tout leur raconter mais je peux pas parce que ça serait trop long. Mais entre l'épreuve des sauts qu'elle rate, mais elle tombe en essayant de descendre du tapis, les maîtres du temps, il faut pas que la feuille brûle, elle fait un barbecue avec sa feuille qui brûle en 4 secondes, elle est prisonnière, elle arrive pas à se libérer, donc elle est reprisonnière, donc elle passe toute l'émission prisonnière, elle met 1 minute 30 de plus que le temps autorisé à sortir, donc du coup son équipe n'a absolument pas de temps pour trouver le mot.
Elle donne le mauvais mot.
Elle donne le mauvais mot. Elle est contre une enfant dans un duel contre des enfants. Alors c'est un truc qui a pas duré très longtemps dans Fort Boyard. Elle tombe au bout de 15 secondes. Enfin, il n'y a pas eu une épreuve réussie.
Elle a interdit à Alex Good d'aller sur les plateaux télé pour parler de sa performance.
Oui, aussi. Et... Après, ça peut se comprendre.
Hein. Enfin, oui, non, bien sûr.
Mais le move ne se comprend pas, mais disons, se comprend qu'elle n'ait pas envie qu'on médiatise ça. Et c'est bien pour ça qu'on le fait. On n'attend pas d'attacher avec Joey Jonathan. Et Joey Jonathan vient nous chercher.
Mais d'ailleurs, ce passage n'est pas du tout destiné à nos auditeurs. Hein. C'est vraiment un extrait qu'on va envoyer à Delphine Arnaud et Olivier Mine pour leur dire qu'on est tout à fait partant pour faire un podcast après Fort Boyard.
Ah bah pour l'After Four, moi j'ai déjà mes rubriques et tout. Hein.
Là, on est là pour moderniser France Télé, en plus j'ai vu qu'il y avait du budget qui avait été libéré à France Télé après des départs soudains à la rédaction sport, donc on est dispo, si besoin. Et d'ailleurs mon pseudo actuellement sur Sencaster est un peu un hommage à un grand homme un peu dépassé par ça de son époque. Merci messieurs, on se retrouve dans quelques temps maintenant, là. On va pas se retrouver avant 2-3 jours Florent.
Eh ben, on se retrouve mardi, oui, après Leipzig-PSG, même heure, même endroit.
Même heure, même endroit, donc en plein milieu de la nuit, on débriefera le PSG-Leipzig, et puis le lendemain, évidemment, Lyon-Bayern, qui aurait cru dire ça il y a quelques mois. Merci messieurs, merci d'être aussi bons, on se retrouve bientôt, ciao.
Salut.
Même heure, même endroit, bah même cordialement. Hein.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.